Bonjour et bienvenue dans les Potes Calés. Après nos deux semaines de vacances scolaires forcées par notre cher ami Jean Castex, qui devrait s'abonner d'ailleurs, on va faire une petite review rétrospective sur les films d'Amblin.
Les films d'Amblin, donc Amblin, c'est tout un esprit, hein. C'est on va dire un cinéma de divertissement des années 80 qui a été initié, on va dire, par Steven Spielberg, parce qu'il faudra un petit peu rappeler en introduction la création d'Amblin, c'est que ça a été créé en 1981. Steven Spielberg a choisi ce nom parce qu'il avait réalisé un court métrage éponyme, donc de même nom, en 1968. Et avec un logo qui s'inspire donc du vélo de E.T. Donc on voit Elliot et notre ami E.T.
Elliot et E.T. Hein, ouais. La scène iconique quand il passe devant la lune et paf, c'est le studio.
C'est hop, c'est le logo. Et donc on fait un petit coucou à notre spécial extraterrestre gentil, quoi.
Voilà, le truc, le seul de notre rubrique qui a bien buzzé.
Ouais, celui-là il a bien marché parce que bon, puis on vous en remercie quand même parce qu'on a quand même plus de 50 vues et pour nous c'est ça représente beaucoup, hein.
Ah, c'est énorme.
Faut le dire. C'est faramineux, quoi. Mais revenons à nos moutons, parce qu'on parle des moutons d'Amblin. Mais voilà, quoi. Donc, une société créée par Steven Spielberg, Kathleen Kennedy. Donc, Kathleen Kennedy, la même qui aujourd'hui gère Lucasfilm et qui a fait des choix douteux sur la dernière trilogie, d'ailleurs.
Quelle trilogie?
Et donc le troisième adhérent, c'est Frank Marshall. Donc il faut savoir que Kathleen Kennedy et Frank Marshall sont associés aussi à Lucasfilm avec notre ami George. Quoi. Puis bon, c'est une société qui a perduré, hein. Qui après s'est développée et qui a eu des filiales. Donc la fameuse DreamWorks SKG qui a paru en 94, qui a produit bien sûr d'autres films de divertissement de Steven Spielberg. Mais Amblin existe encore aujourd'hui. Voilà, donc pour une première introduction, je vais pas trop m'étaler sur les origines. C'était un peu pour présenter le tout de suite, on va peut-être aborder une première grosse licence d'Amblin, c'est Retour vers le futur.
Voilà, Retour vers le futur 1 à 3, sachant que pour moi, c'est peut-être le 1 qu'on peut regarder à part, mais sinon, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans son ensemble. Ouais, ça doit être la plus grosse licence connue sous le nom d'Amblin, à mon avis.
Effectivement, donc on peut rappeler que le premier épisode, c'était en 85, le deuxième en 89, et que le troisième en 90. Donc, c'est un peu comme le Matrix 2 et 3 et le Seigneur des Anneaux numéro 2 et 3, c'est-à-dire qu'ils ont été tournés simultanément ces épisodes, hein. Donc on a des histoires différentes, mais on a beaucoup de codes, je vais dire humoristiques, qui reviennent dans les trois épisodes. Notamment, je pense à cette scène du réveil, tu sais, quand Marty se rend compte qu'il est plus à la même époque.
Ouais, à chaque fois que Marty se fait assommer. D'ailleurs, si tu regardes dans la chronologie, en trois jours, il se prend quand même trois commotions cérébrales. Mais sinon, à chaque fois qu'il se fait assommer, ouais, c'est le réveil. À chaque fois qu'il dit, mais non, on est bien dans bien année 1955,
ouais, 1885
ou ouais. Et puis après en 1885 et après on est bien au 17e étage.
C'est ça, ouais. Donc voilà quoi, mais pour rappeler, est-ce qu'on va rappeler un petit peu le scénario? Bah à la base c'est que Marty est un jeune qui est plutôt cool, hein. Il est guitariste, il fait partie d'un groupe de rock, il maîtrise assez bien le skateboard. Il y a une petite copine qui s'appelle Jennifer. Il a des parents qui n'ont pas sa mère est alcoolique, son père est pas très
intelligent.
Ouais, il se fait dominer par un type qui est assez brutal qui s'appelle Biff Tannen. Donc ça c'est pour poser un peu les bases de la première histoire. Ce qui arrive, c'est que Marty, y a une relation qui est un petit peu atypique, hein, quand même, parce que t'as ce jeune qui est quand même ami depuis un certain temps avec un vieux savant fou, Doc Emil Brown. Donc on rappelle quand même Michael G. Fox et puis Christopher Lloyd déjà. Et cet aspect un peu qui ressemble à Einstein, tu sais, physiquement, complètement, quoi.
Et puis comme tu dis, le professeur fou, quand tu te fais la représentation visuelle du savant fou,
c'est ça, quoi.
Bah, c'est clairement Christopher Lloyd dans ça. Puis il est très bon dans son rôle.
Ouais, il est excellent. Puis c'est un mec, Christopher Lloyd, j'ai encore vu il y a pas longtemps. On n'a pas l'impression qu'il vieillit, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, puis même quand tu le regardes, je crois qu'il avait tourné La Famille Adams aussi, qui faisait
ses études. Exactement, ouais.
Je veux dire, c'est toujours la même tronche, mais pas le même personnage, donc il sait vraiment jouer les maboules, hein.
Ouais, c'est ça. C'est toujours les mecs un petit peu siphonnés, quoi, quelque part.
Ouais, siphonnés, puis que tu sais pas où ils vont, tu sais. Ouais. Ils parlent de choses, ça vient, même dans la série Malcolm, quand il a fait le père du père de Malcolm, même là, il était plié dans les...
Ah, il joue dans...
Il a fait un épisode et il jouait le père du père de Malcolm.
D'accord.
Donc, je sais même plus comment il s'appelait, le père de Malcolm.
Enfin, bref, Christopher Lloyd, éminemment sympathique dans ce film. Michael G. Fox, un personnage attachant aussi. Donc, il se retrouve un peu dans... Ah, il teste déjà la fameuse DeLorean, parce que c'est vraiment emblématique aussi comme véhicule, hein. La DeLorean, assez futuriste dans son design.
La DeLorean, qui a fait un beat commercial, mais à partir du moment où le film est sorti, il y a tout le monde qui voulait une DeLorean.
Ouais, ouais, ouais. Alors, en plus, t'es futuriste, notamment par les portes qui s'ouvrent vers le haut, là, tu sais.
Les portes papillons.
Ouais, ouais, exactement. Et puis donc, il y a cette fameuse DeLorean, elle est équipée d'un vecteur temporel, bien sûr. Et puis
au début. Convecteur temporel.
Au début, convecteur temporel. Et puis, il y a une espèce de réacteur nucléaire, tu sais, au début, dans le.
Ouais, au début, ouais.
Donc, il est plus ou moins obligé de voler du plutonium au Libanais. Au Libanais.
Enfin, non, c'est voler du plutonium pour faire une bombe pour des Libanais, et puis. Ouais. Puis voilà, quoi.
Et donc, il arrive tout un embellio. Bon, Doc se fait descendre, on va dire. Par un concours de circonstances, Marty accidentellement le mécanisme
voyage temporel
qu'il renvoie 30 ans en arrière, justement, à
1955.
C'est ça, à l'époque où, justement, Doc a eu la vision.
La vision du convecteur temporel.
Ouais, tout à fait. Mais le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que il y a un autre accident qui survient et il se retrouve dans le rôle de son père. C'est-à-dire que sa mère est amoureuse de lui. Donc lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit rabibocher sa mère avec son père.
Et ça, sinon, il naîtra pas et il commence à s'effacer de la réalité.
Il y a une espèce de paradoxe temporel qui s'est déjà dessiné, quoi. Je veux pas te détailler non plus l'histoire. Bon, on sait qu'il y arrive, de toute façon, mais il y a tellement d'épreuves et de conflits avec, notamment avec Biff Tannen qui est tout jeune.
Ouais, puis aussi beaucoup d'anachronismes, quoi. Aussi, quand il joue des musiques de hard rock en 1960. Ouais, les histoires des talkie-walkie dans les autres épisodes aussi, enfin, étaient toujours des trucs anachroniques ou l'histoire du skateboard volant aussi dans le numéro 2.
Ça, c'est le 2, mais on va y venir après.
Ils reviennent toujours sur des trucs anachroniques où c'est assez rigolo de voir en 1955 le mec jouer à bon vieux rock dans un truc alors qu'ils connaissent pas ce que c'est.
Ouais, c'est vraiment du Chuck Berry, c'était pas à l'époque, c'était pas très connu. Je pense aussi à cette scène, moi, qui m'a fait délirer, c'est la scène où il rentre dans la chambre de son père, il est déguisé en combinaison jaune. Il s'appelle Dark Vador de la planète Vulcain et il met le Walkman
sur les oreilles.
C'est du Van Halen dans le truc, tu vois.
Justement, du hard rock,
ouais. Ouais, du hard rock qui pète, quoi. C'est violent pour l'époque, tu vois.
Ouais, même quand il rentre dans la ferme des deux pins, et que lui croit c'est des extraterrestres, quoi.
Il y a beaucoup d'hommages au film des années 50, finalement.
Il y a énormément d'hommages.
Bon, pas détaillé, mais il y a certaines scènes qui reviennent en fois. Il y a toujours notamment ce code de la poursuite avec Biff, qui finit dans du fumier, quoi, tu vois.
Toujours finir dans du fumier, même la scène de bagarre, ça finit dans le fumier, mais je veux dire, t'as la scène de skateboard 1955 et la scène de skateboard 2015.
L'overboard,
tu te dis, c'est copié-collé, mais tu t'éclates, quoi.
Il y a quelque chose qui, tu sais, il y a pas cette, je trouve pas qu'il y a... Il y a certes une certaine redondance, mais c'est tellement bien amené et tout ça que ça passe, quoi. Puis c'est pas filmé de la même manière, c'est ça,
Non, puis c'est autant dynamique, puis c'est pas toujours les mêmes mimiques, donc ça va non plus, quoi. C'est pas,
c'est ça.
La façon dont il s'en sort, c'est jamais la même chose.
Donc à la fin, il revient, et puis, ça change complètement parce que son père a refait confiance en lui, a sorti un beau livre, un roman, et donc, du coup, Biff se retrouve à nettoyer sa voiture, quoi. Donc Doc repart parce qu'il l'a sauvé par une espèce de lettre, que Doc voulait pas lire au début, mais qu'il a lu, parce que bon, c'est vrai que Doc pouvait pas rester mort, quoi, on va dire.
Pas rester mort, c'était ça.
Il repart vers le futur, et puis on voit l'éclair, là, quand la DeLorean repart, puis ça fait un éclair.
Puis
d'ailleurs, il y a une scène qui est un petit peu bizarre, c'est que j'ai revu la scène où il y a, parce que c'est Einstein qui voyage dans le temps en premier, donc Einstein, ce chien éminemment sympathique, qui est très attachant aussi, il trace des flammes, mais ça passe en dessous de Michael J. Fox, mais ça le brûle pas.
Ouais, en dessous de leurs jambes. C'est une scène.
T'as remarqué?
C'est une scène qui a été rajoutée après, parce qu'il trouvait que le voyage temporel, ça donnait pas assez de visuel. Du coup, en post-prod, ils ont rajouté des flammes, mais ça passe sur leurs jambes.
Ouais, mais ça brûle pas les pantalons de Michael J. Fox, tu vois.
Non.
C'est ça qui est bizarre, quoi. On voit bien, mais c'est pas grave, quoi. C'est un petit détail.
Puis tu parlais de la fin où il retourne vers le futur, comme
c'est
tu
ça,
dis.
Ouais.
Et c'est la fameuse phrase. Là où on va, on n'a pas besoin de
rompre. Ça, c'est excellent parce que.
Phrase culte.
Ça, c'est excellent parce que tout d'un coup, t'as la voiture qui décolle, les roues se lèvent, et puis d'ailleurs, il dit, on n'a pas besoin de route, mais il n'y a pas eu de problème pour voyager dans le temps, non, quand il est parti de nuit, là. Il n'y a pas eu de problème de 88 miles, parce qu'il faut rappeler aussi la limite de 88
miles. 88 miles,
tu vois ce que je veux dire. Il les a atteints sans problème au bout de la rue, quoi, on va dire. Bon, là, Marty dit, on n'a pas besoin. C'est pas assez large, mais si, c'est assez large pour moi, mais bon. Je me perds dans mes détails, c'est comme ça. Donc, hop, ça finit comme ça. Et justement, il devait pas y avoir de suite. Ils n'avaient pas prévu de faire de suite. Donc, c'est un petit peu le statut culte du film, je vais dire, qui a amené le studio Amblin à produire cette suite en 89. Alors là, on a une suite qui est quand même plus science-fictionnesque, dans le sens qu'on arrive en 2015 et on découvre un futur qui est qui s'est adapté avec je me rappelle de cette scène qui préfigure déjà le cinéma en 3D par exemple.
Ouais, avec Jaws 19
avec ce requin qui est dégueulasse d'ailleurs pour
ouais,
moi.
The Meg.
Ce gros requin qui va avaler Michael D. Fox d'ailleurs. T'as aussi les véhicules d'ailleurs. Je crois que t'as un exemplaire du spinner de Blade Runner parce que t'as pas mal de. Il y a plein d'easter eggs dans ces films-là. Hein. Quand t'es par exemple dans le Café 80, tu sais, avec. D'ailleurs, l'un des gamins, c'est Elijah Wood.
D'accord.
Ouais. Et quand il fait un jeu d'arcade.
Ah ouais, avec le.
T'as l'impression que maintenant c'est un peu la même influence qu'il y a sur le. C'est-à-dire que la mode des années 80, elle revient un petit peu à la mode, quoi, tu vois. Les jeux d'arcade reviennent à la mode, le rétro gaming revient à la mode aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu visionnaire dans ce film finalement?
Bah non, parce que Michael Jackson y est mort. On n'a pas de voiture volante. Voilà, c'était 2015, je vous dis pas, mais on en parle du Covid ou pas.
Il y a un côté visionnaire par un petit peu l'aspect social, pas par la technologie, parce que de toute façon là, apparemment, les hommes ont quand même évolué, parce que faut rappeler que dans le premier film, ils avaient Doc devait quand même servir du nucléaire pour faire fonctionner sa machine. Là, c'est différent, il y a un réacteur écolo, on va dire.
Écolo.
Il y a juste à mettre
des déchets,
des vieilles bananes et tout, et puis ça marche. Donc il y a pas de problème. Donc ce côté-là, apparemment, il y a vraiment une évolution de ce côté-là de l'homme, tu vois. Pour ça, il y a un côté positif. Maintenant, bon, l'histoire, c'est que il doit empêcher son fils d'aller en prison, c'est ça un peu l'histoire.
Ouais.
Donc il arrive à inverser la tendance, mais entre-temps, il y a un problème avec le vieux Biff Tannen qui découvre que la DeLorean peut aller dans le temps et donc il récupère un almanach
ce qui est un paradoxe en lui-même parce que le but c'est de jamais perturber l'histoire et puis là Doc il dit à Marty bah viens, on va perturber l'histoire hein.
Bah quand même bah déjà il l'a déjà fait en 55 hein, je suis désolé. Le fait qu'il soit arrivé là pour remplacer son père.
Non mais je veux dire là d'habitude Doc il dit faut pas intervenir dans les affaires du temps pour pas perturber le continuum espace-temps.
Ouais.
Et là, c'est ce qu'il lui propose directement. Fils, c'est un tocard.
Il viole toutes les règles de la fédération, là. Ce qui fait que bon, il arrive quand même il y a plein de gags une fois de plus hein, la maison des McFly tout ça, Michael J. Fox qui incarne
la famille quoi, enfin sauf les vieux mais.
Ouais. Et puis un nouveau problème c'est que maintenant bah il est un petit peu plus impulsif, c'est-à-dire que quand on le traite de mauviette, bah il réfléchit plus puis il fait n'importe quoi. D'être viré de son pays.
Ouais,
boulot,
c'est un peu
quoi.
Sarkozy quoi.
Ouais. Donc voilà quoi. Et puis la deuxième partie c'est que il revient en 85 mais c'est plus 85 qu'il a connu. Donc là, il y a une autre ligne temporelle qui s'est créée. Et il apprend justement que le vieux Biff est retourné en 55 pour donner l'almanach. Pour que son jeune Biff. Attention, il faut bien suivre. Bon, si vous avez vu le film, c'est pas.
Bah,
c'est
il partit se donner l'almanach à lui-même.
Donc, pour qu'il joue les bons numéros et qu'il devienne ultra milliardaire.
Voilà.
Donc, lui, du coup, quand il a l'argent, il a tout modifié à son image. Il est devenu un gros mania de la finance.
Ouais,
de
c'est devenu une dystopie, hein,
les jeux, parce complètement. Que, voilà. Donc, il y a un autre présent alternatif. Et ce qu'il faut, c'est que. Mais là, ça crée aussi un problème de paradoxe pour moi. Mais bon. Parce qu'à partir du moment. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais à partir du moment où le vieux Biff a donné l'almanach en 55. Ça alterne le 85, mais ça alterne pas le 2015. Tu vois ce que je veux dire?
Et en fait, dans une scène coupée, on voit le vieux Biff disparaître de 2015. Parce que, comme quoi, ça a été alterné, mais qu'il y a un décalage dans le temps.
D'accord.
Un peu comme quand Marty, que la mère de Marty tombe amoureuse de son fils. Tu vois, petit à petit, tout le monde disparaît.
Ouais.
Et il y avait une scène coupée, donc, dans cet épisode-là, on voyait le vieux Biff disparaître petit à petit.
Facilité scénaristique aussi, il faut le dire.
Ah, aussi, oui, c'est normal.
Que, il y a, le temps agit comme une vague. C'est-à-dire que plus on va traîner, et plus le temps va se réajuster. C'est ça que tu es en train de dire quoi en fait.
Ah ça je serais pas de dire non. Moi ce que j'ai vu c'est qu'ils ont essayé.
C'est un peu comme ça quoi.
Ils ont essayé de dire que voilà la conséquence c'est Biff est en train de disparaître parce que ouais peut-être que ça remplace la ligne mais ça on peut que supposer.
Parce que normalement si t'as une ligne temporelle qui est fixe, si elle est changée, tout ce qui est au-delà, il change aussi c'est logique.
Bah je sais pas j'ai jamais.
On va partir dans des théories d'Einstein.
Je peux pas vous dire j'ai jamais voyagé dans le temps.
Non mais je veux dire mais si on part d'une certaine logique on va dire sans rentrer dans les explications scientifiques. Enfin, moi c'est ce que je pense. Mais bon facilité scénaristique oblige peuvent quand même retourner dans le temps et puis revenir en 55 pour essayer de rétablir la ligne temporelle.
De récupérer
et là, c'est le bordel parce que ils se croisent et tout ça, donc voilà quoi.
Ouais, ils croisent leur propre version d'eux-mêmes.
Ouais, c'est ça.
Donc Marty qui croise Marty avec un jour de décalage
et Doc qui croise Doc.
Doc qui croise son Doc du passé.
Quand tu vois le Doc du 55 et celui du 85, tu vois pas la différence bon.
Ah non, parce qu'il est revenu de sa chirurgie, donc il est plus vieilli, tu vois.
C'est en plus. Mais ils y arrivent, mais il y a une espèce d'accident à la fin qui fait que le Doc est projeté en 1885.
Ouais, il se prend la foudre. Absolument.
Donc là, on a toujours une espèce de du principe du sérial, c'est-à-dire que dans le premier, on a ça finissait sur un cliffhanger. Dans le deux, le cliffhanger est encore plus accentué. Là, il va découvrir que au début du 3, que en repartant sur il va repartir vers le futur, mais il apprend que Doc risque de mourir d'ici une semaine, si je me souviens bien.
Voilà, une semaine après avoir reçu après avoir envoyé la lettre.
Donc lui décide de se déguiser avec un costume de cowboy mais complètement ridicule.
Ouais, cowboy des années 50 hein.
Mais ringard.
Ringard, complètement rose. Ringard.
Donc lui, ça va, il va repartir en 1885. Donc ce qui le pousse à aller encore plus loin dans le passé. Et puis là, bon bah il y a toutes les références hein, il y a aussi bien du Jackson que du Clint Eastwood quoi.
Ouais, puis les cowboys, les Indiens, la cavalerie, on a tous les les trucs qui arrivent quoi.
C'est ça, c'est
l'attaque de la diligence, mais non, c'est pas la diligence, c'est le train. Donc voilà, tous les trucs du western quoi.
L'archétype du film de western avec tous les poncifs quoi, limite.
Et puis encore des références au film de Clint Eastwood que Biff regardait, il disait c'était quel putain de bon film.
Il y avait d'ailleurs un extrait de Pour une poignée de dollars ou quelque chose comme ça, qui est en train de regarder dans le 2, il me semble.
Ah, je serais pas de dire le titre, mais tu vois, et ça revient dans le 3, toi, tous les trucs.
Enfin,
comme
bref, Marty est habillé comme Clint Eastwood, hein. Il y a le même chapeau, il y a le même poncho et tout.
Ouais, quand il peut changer.
Ouais. Parce que bon, il est encore malmené par l'ancêtre de Tannen, comme de bien entendu.
Buford Molos Tannen.
Tannen, ouais. C'est Buford, je crois que c'était
Buford Molos.
Je me souviens plus. Mais en tout cas, il y a avec sa bande, et puis il fait le moonwalk.
À un moment, quand il danse pied tendre. Bah, il danse. Et il lui envoie le truc plein de crachats sur la gueule.
Puis voilà que il s'en prend plein la gueule, Tannen. C'est trop marrant. Donc de fil en aiguille, puis il se passe que Doc rencontre cette institutrice Clara, je crois son prénom.
Clara, ouais, ouais. Mais je me rappelle plus du nom.
Non, enfin bref. Donc il tombe amoureux et puis voilà quoi. Et puis finalement il est un petit peu désolé Doc parce qu'il veut pas la quitter, mais il doit revenir quand même parce que sinon ça va une fois de plus pareil, briser le continuum espace-temps comme il dit si bien. Donc il y a cette fameuse scène où ils doivent ils ont plus de réservoir, donc il faut qu'ils trouvent un moyen de propulsion.
Le réservoir, il a été percé lors de la course poursuite avec la cavalerie.
C'est ça. Et voilà, hop, donc il faut une propulsion et puis ils vont prendre un otage, une locomotive quoi.
Ouais.
Ouais. Et ça c'est bien fait aussi. Ça,
ouais, c'est super bien fait.
Au niveau du
suspense, c'est top.
C'est au niveau de filmer ça, puis finalement bon, mais ils doivent y arriver parce qu'apparemment le pont il est pas encore construit d'après ce que je suis.
Voilà, s'ils y arrivent pas avant la fin du pont,
hop,
la voiture s'écrase.
C'est le plongeon quoi. Mais bon, ils y arrivent bien sûr, y a pas de problème. Hein, mais le suspense c'est vraiment bien construit quoi, je veux dire à ce niveau-là. Voilà, donc ils arrivent, ils reviennent. Au moment où Marty revient, t'as le train qui arrive et tu dis ah bah ça y est, c'est bon, c'est la conclusion du film, c'est la conclusion là. La DeLorean se fait écraser, il y a plus rien du tout quoi.
Ouais, elle se fait défoncer. Ouais. Un train de marchandises.
Bon, tu te dis, c'est fini, quoi, c'est terminé. Voilà. Quoi. Puis tout d'un coup, t'as une espèce de train qui arrive. C'est le train.
Bah, en fait, t'as les barrières qui commencent à sonner, ding, 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 ding.
Ouais.
Puis qui se baissent, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de train, il n'y a rien. Puis tout d'un coup, je te laisse la suite.
Ouais. Tout d'un coup, t'as une super locomotive. Bon, moi, j'ai l'impression que ça fait un peu, tu sais, c'est un peu inspiré du courant steampunk.
Ah, ça fait exactement steampunk.
Ouais, c'est la locomotive vraiment rétro, mais avec la technologie futuriste, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ça. Puis lui, il arrive, Doc, il est content. Parce qu'il a retrouvé Clara. Ils ont deux enfants qui s'appellent Jules et Verne. Donc c'est son docteur préféré. Moi aussi, j'adore Jules Verne. Et puis à la fin, on voit ce train qui décolle parce qu'il a déjà été vers le futur.
Il dit où vous allez, Doc, dans le futur. Il fait le futur. Je reviens du futur.
Donc t'as cette locomotive en numérique qui est pas trop dégueulasse.
Oh, pour l'époque, ça allait.
Ouais, c'était pas trop.
Oh, même encore maintenant. Hein.
Donc cette locomotive, puis elle va vers l'écran. Puis ça y est, la trilogie se termine. Moi, j'ai pas plaint de la trilogie, même si je trouve que le 3 est un peu plus faible que les autres.
Bah après, je termine pas là-dessus. Hein.
Je sais bien, mais on termine sur les films, après on va revenir.
Ah non, je te parle du film, il se termine pas là-dessus.
Il se termine
sur le fait que Marty a enfin compris que si on le traitait de mauviette, c'était à lui de pas surréagir, de temporiser, parce qu'à la fin il a pas l'accident de voiture. Et il est plus viré.
Oui.
Parce que Doc lui dit que le temps.
Mais ça c'est avant la locomotive.
C'est avant la locomotive.
Ouais, c'est avant la locomotive. Ça termine par la locomotive.
Parce que là c'est.
Mais tu as raison,
Marty qui a fallu qu'il voyage dans le temps pour dire que vouloir à tout prix défendre ton honneur, des trucs comme ça, ça vaut peut-être pas le coup et que des fois que tu laisses pisser et tout va bien pour toi.
Ouais, il y a cette scène où il est prêt à faire la course avec son affreux, là, l'affreux.
Ouais, avec Needles.
Ouais, qui était son collègue dans le futur,
son patron, ou je sais pas quoi, son collègue.
Donc Needles, il est un peu con, il est débile, de toute façon, on voit sur sa tête. Et puis Marty, lui, il joue la feinte. C'est-à-dire que s'il avait répondu parce qu'il a perdu l'usage de sa main.
Dans l'accident, qui a pas eu lieu.
Donc s'il a sa main, c'est-à-dire qu'il a encore changé le futur, lui.
Ouais, c'est le papier, il s'efface. Vous êtes viré, il s'efface.
Et pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il va pouvoir continuer à faire des guitares aussi, si.
Ouais. aussi. Ouais.
Peut-être qu'il va, il va peut-être changer de carrière du coup.
Mais ça veut dire que voilà, il a appris que, enfin, il a mûri. Marty, en, à l'âge de 16 ans, voilà, les voyages dans le temps qu'il a fait, a appris à mûrir et à temporiser son caractère.
Mais ça, c'est un peu le du fait que il a tellement été provoqué dans le western qu'il est passé à côté de la mort, et ça lui a fait prendre conscience que.
Ouais, et puis il a tellement été provoqué qu'il ses ancêtres lui ont transmis la leçon que les paroles s'envolent et tout le reste reste. Et puis, ouais, tu vois, il a retenu la leçon, il a évolué.
Mais c'est vrai qu'il y a une vraie évolution de Marty McFly sur les trois films.
Voilà, les deux derniers.
Ouais.
Dans le premier, on n'entend pas tout ça.
On va dire que, bon, c'est vrai qu'il reste un petit peu fils, mais après, il y a des différences. On va dire que la trilogie, dans son ensemble, elle tient la route, elle est toujours agréable. Moi, quand je vois le premier, généralement, j'ai envie de regarder les deux autres.
Et ben, ça a même pas trop mal vieilli.
Ouais. C'est resté vraiment d'un point de vue esthétique, on va dire, les effets spéciaux, ils ont pas trop mal vieilli.
Non, ça va.
Bon, moi, au niveau d'interprétation, j'ai rien à dire parce que Michael J. Fox, il est toujours juste. Il est pas dans le surjeu, jamais.
Voilà, Lloyd, il est dans le surjeu, mais
ça
le fait.
C'est obligé, ça.
Mais je veux dire, ça le fait, quoi.
Oh, ouais, ça c'est.
Voilà, Tannen, je suis désolé, il tient le rôle aussi. Bah, lui, joue Tannen.
C'est le pire, lui. Hein.
Même quand il est en Beaufort Molos Tannen, ouais. Je veux dire,
ses grimaces et tout.
Il a une tête sur ça, ça s'est marqué sur son visage que c'est le méchant, quoi.
Ah, ouais. C'est sûr qu'on a là l'archétype vraiment du bof, quoi, tu vois.
Ouais.
Voilà, quoi. Puis bon, le reste, on voit la mère de Marty qui apparaît dans les trois. Par contre, le père de Marty, il apparaît que dans le 1 parce que dans le 2, il y a eu des problèmes pour qu'il y revienne.
La petite amie qui change dans le 1 et le 2 et 3,
c'est pas la même. Dans le deuxième, c'est une actrice qui est un peu plus connue, qui a eu plus de carrière. Non, au niveau spéciaux, c'est Industrial Light and Magic, donc c'était quand même la boîte de Lucas à l'époque qui s'occupait de tout ce qui est, on va dire, d'animation numérique.
Ouais.
Donc voilà, ce qui fait que ça n'a pas pris tellement de rides.
Non, puis ça a mis des bases dans la SF en plus.
Ouais.
C'est un film qui est basé maintenant, qui est dans la SF, on a beaucoup de références.
Bien sûr.
À Retour vers le futur, donc il a marqué son époque et il perdure dans le temps.
C'est un film qui est quand même assez référentiel, on va dire. Je pense notamment à La machine à explorer le temps, le film des années 60, tu vois. Je sais pas si tu l'avais vu celui-là.
Ouais, je l'ai vu, oui. C'était pas les Morlocks.
Ouais, c'est ça, les Morlocks. Les Eloy. Donc il voyage dans son message, sans sa machine avec le truc qui tourne, tu sais, autour. Là. Ça, c'est un petit peu référentiel. Maintenant, on a des références de culture geek, style Valdor, Vulcain.
Valdor de la planète. Vulcain, ouais. Valdor, Valdor, ouais. Pas Valdor. Après, voilà, les trucs du Far West où, les clichés du Far West où ils boivent de l'alcool qui dissout le bar, quoi, tu vois. Quand ils font tomber des gouttes de whisky qui arrachent le moteur de la voiture.
On peut souligner aussi la musique de Alan Silvestri parce que elle est vraiment culte, hein, le thème est vraiment culte.
Et d'ailleurs, Alan, vous le verrez dans Membre du jury, dans le numéro 1. C'est l'un des trois membres du jury qui dit c'est assourdissant. Non,
tu confonds avec Huey Lewis.
Ah, avec Huey Lewis.
Donc en fait, Alan Silvestri, c'est celui qui a fait la musique de.
Ah d'accord.
Attention YouTube.
Hein. On l'a chanté, hein, YouTube nous emmerde pas.
Et Huey Lewis, c'est Power of Love.
Power of Love. J'ai confondu les deux.
Huey Lewis, effectivement, comme tu le disais, il est dans les jurys, puis ils font la gueule parce que Marty se déchaîne sur scène, quoi.
Ouais, parce qu'il dit que c'est assourdissant.
Mais c'est de la musique moderne parce que c'est Van Halen, c'est un peu inspiré de Van Halen, quoi. Et d'ACDC, quoi. Tout des grands groupes.
Fait penser à Thunderstruck, voilà, ou des trucs comme ça.
Donc, Alan Silvestri, je citais quelques références. Il a fait notamment la musique de Predator avec Schwarzenegger, qui n'était pas trop mal non plus. Et puis beaucoup de, il est un petit peu rattaché aussi à quelques films de Robert Zemeckis. Donc une très bonne trilogie. Moi, j'ai mon préféré, c'est le 2. Je sais pas pour toi.
Ah, moi j'ai bien la découverte du 1. Le 3, ça fait plus western, donc il y a moins de SF. Mais c'est vrai que le 2, t'as de l'anticipation entre guillemets dedans. Et puis, nous, comme on a survécu après 2012, après la fin du monde, donc ça va, on a pu voir 2015. Et du coup, c'est bien de voir comment ils s'imaginaient à l'époque, quoi.
Ouais.
90, les années 2000.
Maintenant, ça devient une dystopie vu que c'est un futur alternatif, quoi.
Ouais.
Pour dire que on a quand même quelques. Je vais venir par étapes si tu veux bien parce que je voudrais revenir un petit peu sur la genèse du scénario parce que au départ, on avait deux écrivains deux scénaristes qui sont Bob Gale et Robert Zemeckis qui voulaient faire un film sur la jeunesse de leurs parents justement, donc en rapport avec les parents de Marty. Ils voulaient écrire une histoire de remontée dans le temps qui se situe déjà dans les années 50 et est-ce que tu sais, comme ça de mémoire, quelle était la première forme de la machine à explorer le temps avant la DeLorean?
Oh non, je serais pas le dire, ça.
Donc, je vais donner un indice, c'est que Indiana Jones s'en est servi dans un mauvais épisode, on va dire.
Un frigo?
Oui.
Oh merde.
Donc, en fait, c'est un concept qui a été repris par Spielberg pour Indiana Jones 4.
Ouais, dans le projet Indiana Jones 4, parce qu'il est jamais sorti le film.
Disons qu'il fait partie d'une réalité alternative.
Voilà,
un peu comme la post-logie, tu sais. Cet épisode 7, 8, 9. Là.
De quel film tu parles?
Les auditeurs auront compris. un frigo, un peu bizarre comme idée. Donc un frigo qui fonctionne au nucléaire. Et en fait, le principe c'était que Marty revenait dans les années 50 et ils avaient un contexte historique parce que je sais pas si t'as entendu parler des essais nucléaires dans le Nevada par exemple où ils faisaient péter des bombes en plein désert quoi.
Ouais, si, c'est connu ça.
Ce qui devait faire, c'est que Doc et Marty, c'est qu'ils devaient mettre le frigo à proximité d'une
bombe nucléaire
atomique qui aurait provoqué cette histoire de 2,21
gigawatts
pour les renvoyer dans le futur justement. C'était quand même assez absurde, je trouve, comme idée.
Ouais, puis t'aurais tous les gosses qui seraient enfermés dans les frigos. Hein.
Ouais, c'est ça aussi cette histoire. C'est ça aussi qu'ils ont arrêté. Donc finalement, ils ont opté pour l'éclair qui tombe sur l'hôtel de ville pour transmettre voilà quoi. C'est un peu mieux. On a évité cette histoire de frigo. Par contre, on l'a pas évité pour Indiana Jones 4, malheureusement. Parce que là, c'est vraiment au niveau du ridicule. Enfin, si on en parlait de cette scène, mais je crois que c'est l'une des pires scènes du film, quoi.
Bon, je crois que c'est une pire des.
Avec les singes,
des pires scènes
avec
du cinéma.
Les singes et les fourmis.
Et je préfère encore les scènes des singes et des fourmis que la scène du frigo. Hein.
Voilà, c'est un petit peu pour rappeler quoi. Donc Michael J. Fox n'était pas non plus le premier, a eu beaucoup de difficultés à se joindre au tournage parce qu'il est en train de tourner. C'est un peu, tu sais, ça rejoint un peu ce que je disais sur Tom Selleck sur Indiana Jones. Il était pris par la série Magnum.
Il n'a pas pu tourner dans Jones.
Donc lui, c'était un peu la même histoire. Michael J. Fox, c'est-à-dire que il tournait une sitcom qui s'appelait Sacrée Famille, qui a été diffusée sur la 5 et dans le Club Dorothée apparemment. Et ça a duré 7 ans cette histoire, cette série. Et lui, il pouvait pas se libérer. Donc ils ont fait appel à un comédien qui s'appelait Eric Stoltz, qui avait été apparemment un rôle assez marquant dans un film qui s'appelle Mask, rien à voir avec la série. D'ailleurs, la DeLorean, elle fait un peu penser à la voiture rouge
dans Mask.
Mais on va pas s'éloigner parce qu'on s'éloigne beaucoup depuis tout à l'heure. Hein. Donc Eric Stoltz, le problème c'est qu'il y a eu 4 semaines de tournage et au bout des 4 semaines, Spielberg n'est pas du tout content de la prestation de l'acteur. Il fait des pieds et des mains pour que Michael J. Fox revienne. Ce qui s'est passé, c'est que Michael J. Fox, alors d'après ce qu'il dit, c'est que il tournait le jour, il tournait dans cette sitcom,
et la nuit, il tournait dans Retour vers le futur.
Ouais, comme il y a beaucoup de scènes de nuit dans Retour vers le futur d'ailleurs, ou des scènes d'intérieur, ça arrangeait bien le planning, la production quoi. Ouais, aussi, voilà un peu sur Eric Stoltz. Bon, Christopher Lloyd, je veux dire, ça tombe sous le sens hein, que c'était un peu lui qui.
Il a la tête de l'emploi. Ouais.
Puis il y a quelques clins d'œil. Alors je pense, j'ai notamment à Ready Player One par exemple.
Ah, je connais pas non plus.
Mais bon, notre héros emprunte la DeLorean, bien sûr, hein, comme c'est Amblin et que c'est Spielberg, il n'y a pas de problème pour les droits, Et il y a une petite scène, je ne sais pas si tu connais ce film, Albert à l'Ouest, avec Seth MacFarlane, tu sais, celui qui produit...
Celui qui a fait The Orville.
Ouais, c'est ça.
Alors la scène, je ne serais pas à te le dire,
elle est sur YouTube.
J'ai vu que 2-3 scènes.
Alors je te raconte, il arrive dans une bourgade, tu sais, western, il est sur une cabane, puis tout d'un coup, il voit que la cabane, elle s'illumine, ça fait du bleu, quoi, tu vois. Donc lui, il est curieux, il va voir, et puis tu vois donc Christopher Lloyd en train de bricoler sur la DeLorean.
Non, je ne connais pas.
Faudrait que tu la regardes parce qu'elle est marrante cette scène. Mais voilà quoi. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ah bah je suis en train de monter un fer à cheval ou une diligence ou un truc. C'est rien, tout va bien quoi. Puis après il s'en va quoi. Mais c'est un petit caméo sympathique quoi, avec Christopher Lloyd dans une prestation on va dire de une trentaine de secondes quoi. Parce que bon c'est vrai qu'ils ont fait plein de pubs, même quand Michael J. Fox est revenu. Et maintenant on va peut-être enchaîner sur la partie je veux dire univers dérivé entre guillemets. Parce que peut-être que toi, tu as suivi la série animée qui est arrivée en 91-92. Donc
j'ai vu quelques épisodes. Je l'ai pas suivi, mais j'ai vu quelques épisodes.
Et alors, parce que moi, j'en ai vu que deux, donc.
T'as rien raté. Veux dire, c'est des copier-coller. Le méchant, c'est toujours Biff Tannen.
C'est toujours Biff Tannen.
N'importe quelle époque où ils vont, c'est Tannen.
Il y a des scénarios qui sont un petit peu abracadabrants dans cette série. Moi, je trouve qu'il y en a un. Là, j'ai lu un petit peu les résumés vite fait. Il y en a un où Doc était catcheur. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode.
Non.
Bah, apparemment, dans sa jeunesse, c'était
catcheur. Non, je me souviens que de celui où c'est un conte de Noël. Là, où Biff Tannen, il rencontre les esprits du passé, du présent et du futur. En fait, c'est Marty sur son overboard.
Ouais, ça, c'est Scrooge.
Ouais, voilà, il y a un truc à Scrooge.
Puis c'est beaucoup autour des enfants de Doc, hein, les histoires apparemment.
Ouais, beaucoup sur Jules et Verne. Ouais. Où, au moment où ils font un arbre à billets, et puis Tannen, il vole les billets de l'arbre à
donc,
billets.
Donc le méchant Tannen est toujours là, quoi.
Ouais, il est toujours en train de faire des trucs de Tannen.
Donc c'est un peu comme la série Highlander ou la série Robocop. Ça n'a aucun intérêt, quoi.
Ça a encore moins d'intérêt qu'une série Robocop ou Highlander.
Bah alors, je parle surtout de la série animée. Hein, je parle
la série animée, là. aucun intérêt.
Donc on passera quoi. C'était juste pour faire l'anecdote, on va dire. Après, il y a eu une attraction qui s'appelait Back to the Future The Ride en 91. Là aussi, il y a une petite intro. Tu sais, c'est un petit peu c'est.
Fait penser au Star Wars Tour.
Ouais, les Universal Studios, ils avaient fait une attraction T2 3D, tu sais, Battle of Time.
Ouais.
Je sais pas si tu l'as vu. Donc là aussi, il y a une petite présentation d'une demi-heure de Christopher Lloyd. Encore une fois, c'est Biff Tannen, donc il vole la DeLorean. Et toi, en fait, tu traverses différentes époques. Toi, t'es dans le Star Tour, comme tu dis. Enfin, t'es dans une DeLorean qui est plus grande. Et toi, tu poursuis Biff Tannen. Alors, t'es en 55. Après, tu es en l'an 0. Après, t'as une espèce de dinosaure qui essaie de t'attraper à un moment.
Jurassic Park.
Voilà. Donc, déjà une première référence. Et bon, elle a duré quelques temps, mais ça n'a pas. Ils ont fermé parce que bon, ça n'a plus trop de succès. C'est tout, quoi. Je pense que j'ai un peu parcouru la licence. Est-ce que t'as d'autres choses peut-être à annoncer?
Non, après, ils parlent de faire un retour vers le futur 4, d'après. Enfin, ils en parlent depuis des années et des années.
Ça fait longtemps, hein.
Mais je veux dire, c'est un peu comme Duke Nukem, on n'en voit jamais la fin, quoi.
Et puis, il y a un problème aussi, c'est que Michael J. Fox n'est plus très en forme non plus.
Ah, Michael J. Fox, c'est Parkinson, c'est ça? Donc, il est vraiment très, très, très atteint. Ils étaient revenus pour un truc dans un show, mais je sais plus lequel, où ils parlaient justement de l'iPhone à l'époque. Donc, on avait des super calculateurs dans nos poches maintenant. Et ils disaient, qu'est-ce qu'ils font avec? Ben, ils regardent du porno. Ça m'a fait péter de rire. Et déjà, Michael J. Fox avait beaucoup de mal à se contrôler ses gestes. Parce que, forcément, il doit faire des grands gestes.
Un peu déformé de sa bouche. Tu
même
sais,
dans Spin City, déjà, il avait
du
mal
à
contrôler ses gestes. Ouais. Et là, il est complètement dévoré par la maladie, quoi.
Bon, si je pourrais parler un petit peu aussi de Michael J. Fox, il y a eu une belle carrière quand même. Parce que, bon, s'il a fait beaucoup de comédies, entre guillemets, on va dire, c'est un acteur qui s'est quand même un peu cantonné dans la comédie. Bon, je pense à Teen Wolf, je sais pas si tu l'as vu.
Oui, je l'ai vu.
Ou Fantôme contre Fantôme. Ou,
ça, je l'ai pas vu.
Mars Attack aussi.
Ah, il était dedans, Mars Attack.
Ouais, il est dedans aussi. Il y a plein d'acteurs là-dedans. Il y a Nicholson, tout ça. Il y a aussi La Manière Forte avec James Wood qui est excellent, je trouve. Mais il y a un film qui est dramatique, qui est signé Brian De Palma avec Sean Penn, qui se situe pendant la guerre du Vietnam. Et là, il a un vrai rôle dramatique et c'est un film qui est assez dur sur une troupe de soldats, bon, qui commet un viol apparemment sur une locale. Et lui, il doit dénoncer ses collègues. Il y a toute une espèce de litige, je dirais, intérieur qui se. Et là, on voit que il fait l'acteur. Il se contente pas que de faire de la comédie, quoi, d'être rigolo. C'est vraiment dramatique comme film.
Ce qui permet de voir qu'il y a plusieurs franges dans son métier ou dans son talent d'acteur, parce que des fois des acteurs comme tu prends Jim Carrey, il y a du mal à sortir de certains rôles.
Ouais.
Dans numéro 23, ça avait été.
Quoique dans Truman Show, je trouve que
dans Truman Show, ouais, ça a donné notre expérience.
Ah, ouais.
Mais t'as des acteurs comme ça qui sont cantonnés à des catégories et ouais, quand on leur permet de sortir de leur catégorie, des fois on a des bonnes surprises.
Ouais, c'est ça en fait. Bon, Christopher Lloyd, j'ai pas beaucoup. J'avais cité La Famille Addams, les deux épisodes. Il joue aussi dans Roger Rabbit dont on parlera tout à l'heure.
Ouais, dans Roger Rabbit.
Ouais. Il joue aussi dans Star Trek 3. T'as pas vu Star Trek 3?
Si, je l'ai vu, mais je me rappelle pas.
Alors lui, c'est le chef des Klingons du vaisseau Klingon.
D'accord.
Donc il est maquillé.
Il est fort grimé.
Il faut vraiment le reconnaître, quoi. Il y a plein de, enfin les avec la chevelure et les bosques sur le visage.
Ouais.
Il est quand même assez difficilement reconnaissable. Mais on voit que c'est Christopher Lloyd quand même. Voilà quoi. C'est pas non plus. Je vais conclure comme ça parce que sinon je vais en avoir pour des heures de parler sur les carrières des acteurs. Je pense que on a fait le tour qu'il fallait. On a bien parlé sur Retour vers le futur. Et est-ce qu'on peut peut-être enchaîner sur la deuxième grosse licence, je dirais, c'est Gremlins de Joe Dante.
Voilà, Gremlins, ouais. Moi je l'ai vu, j'étais un peu, on va dire, jeune, donc j'ai un bon et un mauvais souvenir de Gremlins.
Donc t'as été terrorisé quand t'étais jeune, en fait.
Ah, quand j'étais plus jeune, ouais, je devais avoir 5-6 ans la première fois que je l'ai vu. Ouais, c'est bien choquant, hein, je veux dire, là, c'est, voilà. Mais encore un film qui est pas fait pour les enfants, parce qu'il faut avoir du recul pour regarder ça, parce que c'est quand même une critique un peu de la société américaine, des villes tranquilles.
Complètement.
Mais, veut dire, à cet âge-là, non, on le prend au premier sens, hein, c'est-à-dire c'est un film de monstre, un peu marrant, mais... Ouais, j'ai des bons et des mauvais souvenirs de ce film.
Bon, à côté, je vais dire, comme tu dis, le côté monstrueux un peu des films des années 50-60, tu vois, de cette invasion de bestioles, tu sais, qui viennent d'ailleurs, quoi, quelque part. On sait pas si Gizmo est vraiment de la Terre, c'est ça, il y a pas d'origine, en fait.
Non, il y a pas d'origine story.
Ouais. Bah, pour rappeler un petit peu, je dirais que, l'histoire, c'est qu'il y a le père de Billy qui veut lui faire un beau cadeau pour Noël. Il va dans une boutique et il est intrigué par cette espèce de petite bestiole.
Ouais, au début, il va dans cette boutique pour vendre une de ses inventions, qui est totalement merdique.
Ouais. Donc, moi, je me souviens surtout du dentifrice qui fait de tous les côtés.
Ouais, moi, je me souviens de la machine à orange. Un jus d'orange qu'on envoie partout dans la cuisine.
Le couteau suisse, tu sais, avec...
Le couteau suisse avec...
Donc lui, c'est un inventeur, c'est vrai, bon, un inventeur qui est pas très... qui est un peu maladroit, on va dire.
Et quand même sympathique. Quand même. Mais ouais. Les inventions marchent pas des masses.
Ouais, c'est ça. Donc c'est pas Doc Emmett Brown, quoi.
Non, c'est pas Emmett.
Donc il achète... le grand-père ne veut pas le vendre parce qu'il sait qu'il y a des risques, mais son petit-fils, lui, il parvient à le vendre. Donc il lui dit, il y a trois règles à respecter,
ouais,
que tu vas énoncer d'ailleurs.
Et Mogwai, bah déjà, ouais, jamais le mettre au contact de l'eau.
C'est ça.
Un peu comme un VRP, hein, toujours au contact du pastis, jamais de l'eau. Oh putain, je vais me faire des ennemis. Après, ne pas les exposer à la lumière vive, et surtout, jamais, surtout, et ça c'est la règle la plus importante, ne jamais les nourrir après minuit.
Et voilà. Et donc, il y a trois règles à respecter. Donc Billy, bah, il fait copain-copain avec Gizmo, parce que Gizmo, bah, il est mignon et tout, hein.
Ouais, c'est une peluche kawaii, hein.
C'est un peu le cousin lointain de Grogu.
Oh, il est plus mignon que Grogu.
Ah bon, t'aimes Grogu, tu trouves pas qu'il est beau?
Le Mogwai, il est plus beau que...
Bah, disons que Grogu, c'est Gizmo sans les poils, quoi.
Voilà. Donc, tu tonds Gizmo, t'as Grogu. Ouais, ce Grogu, il ressemble plus à un Gremlins qu'à un Mogwai, hein.
En plus, c'est une espèce de mix, tu sais.
Bah ouais.
Oh, le bouffeur d'araignée. Donc Grogu, pour ceux qui s'en souviennent plus, est-ce que je vais oser le dire? C'est dans Star Wars. Tellement longtemps que j'ai pas parlé de Star Wars.
C'est pas dans Star Wars, c'est dans The Mandalorian. C'est pas pareil. On parle pas. Ouais, compare pas les qualités, là.
Compare pas les franchises.
Non, là, la qualité, carrément.
Mandalorian, c'est vrai.
T'as Mandalorian. Donc, sur une échelle de 1 à 10, il y a 14,5.
On est impatients de découvrir la saison 3 des jeux.
Annulé, il n'aura pas. Ils veulent virer...
Les
deux acteurs principaux.
J'ai vu qu'ils veulent virer Gina Carano, parce qu'apparemment, elle a dit des trucs qui ne plaisaient pas à Disney.
Ouais, et puis Pedro Pascal
aussi,
parce que...
ils veulent le virer.
Ouais, j'ai entendu ça. Ouais.
Bah, c'est dommage, hein, Pedro Pascal était pas mauvais.
Bon, c'est bien, c'est qu'ils peuvent le remplacer par n'importe qui, du moment qu'il enlève pas son casque.
Ah ouais, c'est vrai. Puis il faut comme Luke, il met un visage numérique. On est en train de se détourner là, non?
Ah bah à chaque podcast, hein. S'il y a pas un moment, on parle pas 20 minutes.
Dès qu'on parle de Star Wars, ça y est, on est parti vers une longue discussion d'une heure. Voilà.
Sinon, on parlait de Gizmo.
Gizmo, le petit Mogwai, bien gentil et bien. Voilà quoi. Donc Billy, bah il s'attache forcément, hein, nous aussi, hein, quelque part.
Ah forcément, il est tout mignon, ce bazar.
Bah ouais. Et puis pour les gamins, c'est idéal, hein. Donc il arrive ce qui arrive, hein. C'est qu'il respecte pas les règles, hein, du tout. Hein.
Bah le premier, il renverse un peu d'eau sur Gizmo.
C'est accidentel, quoi.
Voilà, accidentel. Puis bah ça fait.
Ça pop.
Ça fait popper d'autres Mogwai. Okay. Mais ils n'ont pas l'air très sains, hein, les autres. Hein.
Ben, déjà, quand ils sont petits, ils sont pas sympathiques. Hein.
Ouais.
Ils sont moches.
Moches, je dirais pas, mais il y en a notamment un qui a l'air...
Avec la raie, tu veux dire.
Puis avec la mèche, ouais. Tu te dis que c'est ce machin, il est spécial.
Les autres, ils ont une drôle de tête parce que...
Tu sais, on dirait un peu un homme politique.
Les yeux qui sont un peu bizarres, non?
On dirait un homme politique, tu le regardes et tu te demandes ce qui va t'arriver.
Il y en a un avec ses yeux qui vont de travers, là.
Ouais, il y en a un qui c'est un taré, quoi. Ouais. Après, l'autre, c'est des boulies, hein.
C'est des lourdeaux, quoi, à la bif.
Des lourdeaux, c'est des tanennes.
Ouais. Donc voilà, quoi. Et puis, c'est des malins, hein. C'est des vicieux, hein, parce que.
Pour déroger.
Tout pour être métamorphosé, hein.
Ouais, parce que quand ils donnent à manger après minuit, en fait, ils regardent l'heure. Et il était pas minuit, il était, je sais pas, 23h, un truc comme ça. Et en fait, ils ont bouffé les câbles du réveil.
Ouais, mais là, il n'y a pas un problème de... Vas-y, je te laisse terminer.
Pour qu'ils leur donnent à manger après minuit.
Je pose le problème de minuit. Ouais, mais dans quel créneau horaire?
Bon, ça, c'est... Hein, c'est un des mèmes les plus connus sur Internet. Comme il est minuit quelque part sur la planète à chaque fois...
Ils s'arrêtent à quoi, au soleil ou...
Bah surtout, et minuit jusqu'à quelle heure?
En plus.
Parce que si tu leur donnes à manger à 6h du matin, est-ce que ça compte ou pas?
Bon, facilité scénaristique, on va dire.
Bah oui. C'est ta gueule, c'est Gremlins.
Ta gueule, c'est Gremlins. Il y a une scène assez horrible dans un laboratoire avec le scientifique, là.
Ouais.
Et il se fait, mais défoncer, je crois, en plus, là-dedans. Parce que bon, apparemment, ce qui arrive, c'est que, il y a des œufs un peu dégueulasses, plein de gélatine.
Bah c'est ça, quand ils sont dans un cocon pour se transformer, et c'est ça devient des œufs aliens, en fait, hein.
Ouais. Ouais, carrément.
Regardez Alien.
Il y a plus que le machin qui va sortir, tu sais, pour attraper.
Et puis l'autre, il pique la barre de céréales du scientifique dans sa cage.
Ouais.
Comme ça, il peut se transformer.
Aussi.
Et puis, ça décuple leur force, apparemment, de se transformer.
Mais la lumière, on va revenir tout à l'heure. Parce que moi, je pense qu'il y a un problème avec la lumière. Donc, il se transforme. Et évidemment, ce qui fait le chef, on va dire le chef, hein.
Ouais, celui qui a la crête.
Le punk, je vais l'appeler le punk. Il va dans une piscine, et puis hop, il se multiplie le mec, hein.
Ouais, il plonge dans l'eau, ouais.
Et là, ça y est, là, c'est...
Et là, c'est les gremlins qui se multiplient, pas ouais. Les mogwai.
Donc les gremlins se multiplient directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas cette phase de transition vers le mogwai, quoi.
Ouais.
Puis il commence à faire le bordel
dans la ville.
Dans le village. C'est un petit village, hein. Ouais, ça fait un peu.
Ouais, bourgade.
Tu le rapproches de Hill Valley, hein. Pour moi, c'est un petit peu comme Hill Valley, hein, dans Retour à le futur, hein. C'est un petit village, une petite bourgade, tu sais, avec ses poncifs et tout ça, là, avec la vieille qui est détestable.
Diggles, ouais.
Ouais. La personne qui, bon, puis t'as le vieux, quoi, qui revient souvent, là, le gars, là, qui fait déménagement, je crois. Enfin bref, il y a plein de personnages. Donc t'as Billy et Kate, je crois que c'est Kate, l'actrice, là, qui est la copine,
ouais,
de Billy, en fait.
Moi, je me rappelle plus du nom. Moi, je me rappelle que de Billy, ouais, et
Kate,
du Mogwai.
Je crois, c'est, donc il y avait Zach Galligan et Phoebe Cateson, enfin, comme ça pour...
On dit Phoebe, normalement. On dit Phoebe, normalement.
C'est Phoebe, hein.
Ouais.
Oh, bah, excuse-moi, il y a l'anglais chez moi. Ça va pas... Des fois, c'est pas trop bien. Je sais dire Star Wars, mais le reste des mots, pas trop. Donc Phoebe Cates et Zach Galligan, c'est le bordel, ils cassent tout, ils boivent comme des trous.
Moi, j'allais dire, ils picolent. Ouais.
Ils vont au cinéma, ils font le bordel.
Ah, c'est des Américains moyens. Hein.
Mais ça reste toujours gentil, y a pas de mort, à part cette personne qui vole dans l'air, avec son siège, tu sais, dans l'escalier, là.
Ouais, ouais. Puis...
Y a que son autre truc, hop, la vieille, elle dégage.
Ah, c'est quoi. Ça, c'est Madame Diggles.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc, attention, elle était infecte, mais bon. Et puis, le pire, c'est la bagarre dans la maison de Billy, quoi. Avec le four à micro-ondes.
Ça, et aussi dans
le truc avec l'orange et tout ça.
Aussi dans le supermarché, quand il sort la tronçonneuse et tout, pour découper Billy.
C'est après, ça. Aussi, c'est après, ça.
Ah, quand tu dis le pire, pour moi, le pire, c'est dans la zone commerciale.
Pour moi, t'as le grémis qui explose dans le four à micro-ondes.
Oh, ouais. L'autre qui se fait
il se fait éventrer.
Jus d'orange là.
Il y a plein de sang vert partout. Attention, c'est pas vulcain, hein. Mais voilà, quoi, c'est catastrophique. Et ça reste dans la limite du comédie, je vais dire familiale.
Ouais, bah, j'ai eu peur la première fois que je l'ai vu, hein.
Et encore, quand je vais te dire des anecdotes tout à l'heure, tu vas te dire, ah putain, c'était plus proche du film d'horreur au début. Mais on va continuer dans l'histoire. Ce qu'ils veulent, c'est que les faire sortir au plein jour, quoi. Il y a que ça à faire, quoi. Donc ils entraînent.
Ils sont exposés à la lumière.
Une espèce de, le truc du magasin, du jouet, là, je sais pas quoi, là.
T'as même le gremlin. Il y a un moment, c'est dans le magasin de jouets.
Le gremlin qui glisse avec ça, c'est une tronçonneuse, là.
Ouais, aussi, ouais.
Ouais.
Ah, c'est ça, je te dis, hein.
Ouais.
C'est le débile, d'ailleurs, qui a la tronçonneuse, je crois.
Ouais, je sais plus. C'est vrai qu'il y a, on va dire, il y a trois gremlins qui dominent, parce que bon, les autres, c'est des soldats. Donc, ils font le bordel, tout ça. Il y a, oh, tu rigoles quand même, hein. Je veux dire, il y a tout le temps des scènes où ça dédramatise, tu sais.
Ouais, il y a des scènes qui désamorcent, mais ouais. Ça reste quand même anxiogène, quoi.
Ouais. Enfin, de ton point de vue, moi, je trouve que c'est quand même comique comme film, mais
Oui, c'est marrant, mais faut le regarder avec un œil plus mature.
Ouais.
C'est marrant.
Mais, je sais pas si, tes enfants, ils regarderaient Gremlins.
Non, je leur montrerai. Gremlins 2 à la rigueur, parce que là, c'est complètement...
Ouais.
C'est complètement de la comédie.
Ouais, ouais, là aussi.
Mais le 1, non, je suis pas sûr de leur montrer avant qu'ils aient 40, 50 ans.
Mature, quoi.
Mature, ouais.
Donc, ils arrivent quand même à refléter la lumière dans ce magasin. Je sais plus comment que ça finit. Mais enfin, bref, ils meurent tous. Ils fondent. C'est dégueulasse, d'ailleurs, là.
Ouais, c'est la sorcière du magicien d'Oz.
Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, il y a Gizmo qui, par chance, évite d'être cramé par le soleil, on va dire.
Ouais.
Puis, ils sont obligés de rendre
le mogwai.
Le petit, là, hop, au magasin. Voilà, donc, premier film. Moi, j'adore ce film. C'est culte, pour moi.
Ouais, il a bien vieilli. Le premier film,
Ouais.
Bon, à un moment, on voit quand même les marionnettes.
Ah, ouais. C'est bien fait, quand même.
Ouais, ils sont mieux que certaines marionnettes dans Star Wars épisode 1, 2, 3. Mais sinon, non.
Surtout la marionnette de Yoda dans l'épisode 1 qui est vraiment dégueulasse, quoi.
Mais voilà, c'est bon. Non, ça va. Film, entre horreur et comédie, hein, c'est dur de le classer.
Bah, moi, je pense comédie horrifique, quoi, on va dire.
Comédie horrifique.
Ouais, ouais, tout à fait. Puis on arrive en 90, parce que bon... On a un deuxième en 90. La nouvelle génération. On n'est pas dans Star Trek.
Non.
Là, c'est la Gremlins 2, la nouvelle génération. Où Billy et sa copine, ils se sont installés à New York.
Voilà, ils travaillent tous les deux dans le Club Center. Ouais. Lui en tant que dessinateur et en tant que guide, hôtesse. C'est pas cool.
Ouais, c'est ça. Et puis, ils mènent des expériences un peu bizarres dans ce truc-là. Parce que on a Christopher Lee qui fait le caméo, là. Ce qui se passe, c'est que la boutique de Chinatown, apparemment, elle est démantelé complètement.
Ouais, ils veulent la racheter, il a jamais voulu vendre, puis un jour il meurt, et puis du coup, ils mettent ma base sur la boutique, et puis ils se disent, tiens, c'est quoi ce machin, et ils attrapent le Mogwai, les deux jumeaux bizarres, là.
Bah, le Mogwai, il se barre. Il se barre du magasin.
Bah, je sais que les deux jumeaux bizarres, ils attrapent le Mogwai, à un moment.
Et c'est là qu'il y a un problème, c'est qu'ils se barrent en pleine journée.
Ouais, cherche pas, parce qu'il y a un moment, on voit quand même un Gremlins en pleine journée, habillé en chauve-souris.
Ah bon?
Ouais. Ah ouais, mais il se fait mettre une injection de trucs contre la lumière, en fait. C'est beaucoup de facilité là-dedans.
Ouais, le Gizmo, lui, en pleine je le vois courir dans une allée en pleine journée.
Ouais, je suis pas sûr, je m'en souviens plus trop.
Faudra vérifier, mais bon.
Ouais, vous dites-nous en commentaire si vous le voyez.
Enfin, si t'es scénaristique, c'est pas grave.
Non, ouais, là, il y en a plein. Alors, si t'es scénaristique.
Dans le 2, c'est encore pire, je trouve. Par un concours de circonstances, il arrive dans le labo de Christopher Lee, Gizmo, et ils veulent faire des expériences dessus. Et puis, par le fait du hasard, c'est que Billy retombe sur Gizmo. Donc, bien sûr, il va essayer d'aider son petit copain, et puis, puis il y a encore un accident, et puis, ça y est, ils se multiplient. Mais là, ils sont un peu plus intelligents parce que, ils font pas mal d'expériences génétiques, les Gremlins.
Puis il y en a même un qui
se transforme en chauve-souris.
Il y en a même un qui s'est parlé, d'ailleurs.
Ouais, il devient plus intelligent que les autres.
Il devient plus intelligent, il bouffe les produits chimiques, en fait.
Ouais, c'est ça, ils bouffent tout. De toute façon, ils sont pas à ça près. Puis il y a un peu des trucs d'horreur avec la chauve-souris qui vole.
Ouais, puis quand il passe à travers le carreau, ça fait le logo de Batman.
Ouais. T'as retenu ça, hein.
Ah ouais, ça, j'ai retenu. Ça m'a
Donc il y a plein de références aussi dans ce film.
Ah ouais, c'est bourré.
Que ce soit Rambo 2, par exemple, avec Stallone.
Ça a une référence avec l'acteur qui fait le vampire, là.
Christopher Lee, tu veux dire?
Ouais, parce qu'à un moment, il discute avec le Gremlin.
Il sort les dents, non?
Enfin, je veux dire, les deux, ils ont un dialogue, et puis, c'est plutôt burlesque, quoi. Après, il y a une femme Gremlin aussi, enfin, voilà, tous les trucs comme
ça. Ouais, il y a l'espèce de Starlet, là, ouais.
Ouais, exactement.
Ouais, puis t'as la femme, t'as le mec intelligent, t'as l'araignée, aussi l'araignée, là, elle fait peur, celle-là.
Ouais, elle fait un peu plus peur.
Elle fait un peu peur, quand même. Parce qu'il y a, je crois qu'il y a Gizmo
qui... T'as le Gremlin électrique aussi. D'ailleurs, c'est grâce aux Gremlins électriques qu'ils seront tous tués.
Ouais, c'est ça, en fait. Donc, ils sont encore plus nombreux que dans le 1, mais ils sont cantonnés dans le bâtiment. Donc, ça devient moins intéressant, je trouve, ce film.
Ouais, puis c'est carrément une parodie, ce film.
Ah oui, oui, oui. On te balance de la référence à tout va, quoi.
À tout va. C'est autant qu'un Ready Player One.
C'est pour ça que moi, je trouve qu'il est beaucoup moins bon que le premier, quoi.
Ouais, beaucoup moins bon. Ah, ouais. Par contre, pour les enfants, c'est plus facile à regarder.
Ouais, peut-être, ouais. Quoique l'araignée...
L'araignée, elle fait un peu peur.
Ouais, quand même. Ta fille, je sais pas si elle...
Faudrait que j'essaye. Un petit traumatisme pour les enfants.
Un petit traumatisme d'enfance. Voilà pour Gremlins. Toi aussi, t'as une préférence pour le premier
Moi, j'ai une préférence pour le premier. Ouais. Le deuxième, pour moi, c'est à regarder un peu comme un pastiche.
Voilà. Ouais.
C'est pas à regarder au premier degré, tu regardes ça
une
comme...
Une espèce de parodie du premier, quoi.
Ouais, ça, tu poses ta cervelle à terre et tu regardes ça. Ouais.
Voilà, quoi, je vais passer à la partie un petit peu anecdote. Joe Dante, c'est un réalisateur qui est assez connu. Il a notamment commencé dans le film d'horreur, justement. Il a fait Piranha, je sais pas si tu l'as vu. Piranha.
Non, j'ai pas vu celui-là.
Hurlement, un film de loup-garou.
Ah, pas vu non plus.
Non plus.
Bah, tu sais, les films d'horreur, moi.
Ouais.
À part l'élection de Macron, je l'ai pas regardé beaucoup.
Il a fait aussi Small Soldiers, que
j'ai vu
il y a pas longtemps. Donc, ça, c'est un peu plus un film dans l'esprit Amblin, hein, avec les jouets qui se révoltent.
Voilà, les jouets qui se font la guerre entre eux, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. C'était bien sympathique.
Rien à voir avec Toy Story.
Il a fait aussi L'aventure intérieure, j'ai envie de t'en parler vite fait, quoi.
Ouais, vite fait. Parce qu'il est oubliable, pour moi.
Donc, un bon divertissement. Moi, j'aime beaucoup Dennis Quaid, l'acteur principal. Je trouve qu'il y a énormément de charisme et il y a un côté un peu sympathique.
Ouais, puis pour info, L'aventure intérieure, c'est une expérience. Il miniaturise un vaisseau, entre guillemets, pour le mettre dans un corps. Donc, normalement, ça devait être un lapin. Mmh. Et puis, facilité scénaristique, gouvernement, ça devient chez les
Indiens. Il y a une espèce de complot, d'histoire de complot dans le truc.
Exactement.
Bon, à la base, L'aventure intérieure, c'est inspiré d'un film qui s'appelle Le Voyage Fantastique, qui a été réalisé par Richard Fleischer en 1966. Donc, le concept n'est pas original, on va dire, déjà. Il y a ce côté, je vais dire, un petit peu cartoon, des fois, dans le film, qui fonctionne, et puis j'ai dit, on a de bons acteurs, entre Martin Short et Meg Ryan, moi, Meg Ryan, je l'aime bien, elle est très jolie, mais c'est un film que, moi, je trouve pas déplaisant, tu vois, dans l'ensemble. Pas exceptionnel, mais pas déplaisant, tu vois.
Ça se laisse regarder, mais je veux dire, tu vois, des scènes inoubliables dedans, non, j'en vois pas.
Ah, il y a des scènes comiques que moi, j'ai quand même
retenues. Ouais, comiques, mais pas inoubliables. Ouais.
Notamment, il y a de très bons effets spéciaux quand ils voyagent dans le corps du bonhomme, quoi, justement. Tous les décors, tout ce qui fait que l'anatomie intérieure de l'homme. Je trouve que c'est bien retranscrit. Il y a une espèce d'immersion quand on se retrouve là-dedans. On a deux points de vue différents, mais voilà. Quoi. L'aventure intérieure, oui, je voulais en parler vite fait parce que justement c'était Joe Dante et qu'il faisait partie de la liste d'Amblin, justement. Donc pour revenir à Joe Dante, au début c'était les films d'horreur. Et en parlant de films d'horreur, justement, l'histoire à l'origine de Gremlins était beaucoup plus sombre. C'est-à-dire que les Gremlins étaient carnivores. Donc il y a des scènes qui parlent de il dit pareil, à un moment, il mangeait le chien de Billy, par exemple. Où il se retrouvait dans un fast-food, et il mangeait tous les gens qui étaient là, tu vois. Donc c'était vraiment, limite, crasseux, quoi. Et il y avait même une scène qui avait été écrite où la mère de Billy se faisait décapiter, le Gremlins envoyait la tête aux pieds de Billy, dans un escalier.
D'accord. Bon, ils ont peut-être bien fait de l'adoucir.
Ouais, ouais, non, c'était complètement adouci. C'est Spielberg qui voulait pas de cet aspect un peu horreur, quoi, tu vois. Il voulait vraiment une comédie familiale, quoi, là-bas, tu vois. C'est ça, le truc. Puis, en fait, il y avait aussi Gizmo qui, lui, en fait, c'est Gizmo qui se transformait en Stripe. Enfin, Stripe, j'ai mis Stripe. En fait, c'est le Gremlins.
Celui qui a la crête.
Donc, il n'y avait pas cette notion de reproduction et de transmutation, quoi, tu vois. C'était direct, quoi. Voilà, quoi. Pour la musique, c'est signé du Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, qui est quand même un grand compositeur. On lui doit quand même la musique de Star Trek, le premier film, la musique de Rambo. Des films de Rambo, et puis la musique de Alien, première Alien,
musique, ouais.
La planète des singes et la malédiction, tous des films qui
que des petits films indépendants, ouais, qui n'ont pas fait beaucoup d'entrées,
qui n'ont pas eu de succès, quoi.
Des films inconnus.
Ouais. Goldsmith, c'est un peu le le concurrent un peu direct de John Williams, tu vois.
Ouais, ouais,
le mec à franchise,
pas, John Williams.
Ouais, le mec à franchise, quoi, tu vois. Et puis, Amblin a prévu cette année, je sais pas si t'en as entendu parler, mais il va y avoir une série animée sur Gizmo. Ça s'appelle Secrets of the Mogwai, et ce serait situé dans les années 20. Et en fait, il mettrait en scène Gizmo et le grand-père, tu sais, dans le 1, mais qui serait un enfant, quoi. Donc il y a une espèce de voyage en Chine, et là pose le problème de la lumière, tu vois.
Ouais.
Parce que s'ils font que des épisodes de nuit, ça va aller vite, quoi. Je veux dire, ouais. Ça va pas être super varié, quoi.
Ouais, si c'est un dessin animé, il risque d'avoir beaucoup de facilité.
Énormément, un peu comme à la Back to the Future, quoi, on va dire. Voilà un peu pour conclure. On va continuer notre exploration, si tu veux bien, Teddy, de l'univers Amblin. Maintenant, on va pas faire tout la filmographie d'Amblin, parce qu'il faudrait des heures pour revenir sur chacun des films.
Ouais, c'est
et
sûr.
On s'est déjà bien étalé sur Retour vers le futur et Gremlins, d'ailleurs.
Ouais, faut dire, c'est les plus grosses licences, peut-être avec celles qui vont venir un petit peu après.
Ouais,
mais sinon, là, c'est les deux plus gros morceaux.
Ouais, celles par lesquelles on va finir certainement. Mais je voudrais un petit peu revenir sur des films qui sont un peu plus intimistes, on va dire. Notamment les Goonies, donc réalisé par Richard Donner en 1985. Alors, Richard Donner, pour rappeler un peu le mec, c'est quand même un grand réalisateur. C'est notamment le réalisateur de Superman, le film, le premier, de 78. Il y a aussi La Malédiction, donc la trilogie de Damien. Toi, tu, je sais pas si tu connais certainement de nom.
Non, ça me parle pas trop.
Damien, mais... La Malédiction, donc une trilogie culte du cinéma d'horreur, on va dire.
Ah bah non, du coup non, ça me parle pas.
Damien, c'est l'antéchrist, en fait, c'est ça. Et puis surtout, le réalisateur de la tétralogie, on va dire, L'Arme Fatale, avec Mel Gibson et Danny Glover.
Ça me parle, et Joe Pesci aussi.
C'est clair, ouais. Donc une trilogie qui, pour moi, va en descendant, mais bon, ça c'est... chacun se pense. Au casting, on va retrouver des jeunes acteurs qui ont plus ou moins fait des carrières. Alors je pense notamment à Sean Astin. Je sais pas si tu connais un petit peu Sean Astin. C'était lui qui faisait le compagnon d'Elijah Wood dans Le Seigneur des Anneaux.
D'accord, voilà, du coup, ouais, ça me parle.
Ouais. Il y a aussi Josh Brolin, bon, qui est un peu plus connu maintenant.
Je connais pas.
Je connais pas du tout.
Deadpool.
Bon, si, ouais, c'est vrai qu'il fait comment il
s'appelle ?
Cable.
Dans Deadpool.
Cable dans Deadpool. Et il joue aussi dans Men in Black numéro 3, d'ailleurs, il me semble. Ouais.
Josh Brolin.
Il a fait plein d'autres films, hein. C'est un acteur qui a une palette incroyable aussi de jeux. Hein. Dans un petit rôle aussi, dans le groupe des Goonies, justement, parce que c'est un peu rappelé l'histoire un petit peu après la présentation du casting. C'est, on a que Wiccan. Alors que Wiccan, je sais pas si tu te souviens de ce petit gamin chinois.
C'était... Oui, je me rappelle un peu.
Tu vas me dire qui l'accompagnait dans un film,
Je pense qu'il a tourné dans Indiana Jones.
C'est ça, c'est le...
2001.
C'est 2001 dans Indiana Jones.
Dans Indiana Jones 3.
Le Temple Maudit.
Temple Maudit, non, c'est le 2.
C'est Temple Maudit, ouais. Pour moi, l'un des moins bons, mais quand même meilleur que le 4. Hein. Faut le rappeler. Hein.
Le 4, y a pas. Alors, faut pas me regarder, y a pas de 4.
Le film virtuel qui n'a jamais existé.
Ouais, c'était dans une dystopie parallèle. Hein. Indiana Jones 4. Non, ça s'arrête à 3.
On a aussi la présence de Robert Davi, qui est un acteur qui est assez connu. C'est cet acteur qui a un visage un peu abîmé, tu sais, un peu brûlé, qu'on a vu dans des rôles de... Bon, il peut alterner des rôles de bons mecs comme des rôles de salopards. C'est notamment lui qui a incarné le trafiquant de drogue dans Permis de tuer avec Timothy Dalton dans James Bond. Je sais pas si tu as vu.
Je m'en rappelle plus trop, ça date. Hein, mais ouais.
Enfin bref, pour redonner un repère, Robert Davi qui fait une espèce de caricature de vilain dans un film là. Alors là, l'histoire, c'est que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je vais essayer de le résumer quand même. C'est qu'il y a 5 jeunes qui sont qui partent en quête d'un trésor à partir d'une carte qu'ils trouvent un peu par hasard, quoi. Et donc ça se passe que ils arrivent dans une espèce de grotte avec un vieux gréement, et puis on a tout ce côté aventure, tout ce côté péripétie, tu sais.
Bah tu disais tout à l'heure Indiana Jones Junior en fait.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Mais c'est quand même divertissant. Il y a le casting qui est assez sympathique, assez attachant, et puis par moments c'est assez enfantin aussi. Hein. On est un peu plus dans l'enfantin.
Là, la cible, t'es carrément dans les pré-ados. Hein.
Là, c'est vrai. On est un cran au-dessus de Gremlins, c'est de Retour à le futur, hein, pour moi, clairement. Hein. Voilà, quoi, moi je le recommande. Et puis c'est un film culte. Hein. C'est un film culte.
Film culte qui est beaucoup repris dans les références aux années 80. On parle beaucoup des Goonies. Hein.
Ouais, Audi aussi. Il y avait aussi l'idée d'en faire une suite à un moment avec les mêmes acteurs. Mais bon, ça, les suites, c'est à haut risque, je vais dire.
À haut risque, hein. Bah, on a parlé de Gremlins 2 tout à l'heure. Voilà, le risque a été pris. Ouais. Bon, bah, fallait peut-être s'abstenir.
Bon, Gremlins 2 a bien marché quand même, hein. Faut pas se.
Ouais, mais bon, il était moins fun.
Ils ont quand même arrêté, quoi. Après ils ont pas continué, quoi. Ils ont pas fait de trilogie.
Contrairement à Jaws 19.
Il faudrait qu'on parle un petit peu des de la merde, de ces suites qui sont quand même catastrophiques.
The Meg.
On a déjà parlé dans un précédent podcast, on avait fait une espèce de comparaison entre le chef-d'œuvre Les Dents de la Mer, le nanar The Meg avec John Statham.
Avec John Statham. Ouais. Donc Fast and Furious sous les mers.
C'est ça en plus. Il manque The Rock.
Il manque The Rock. C'est lui qui fait le Meg.
Avec ses gros muscles. Ouais. Bah si vous voulez l'écouter, c'est dans nos archives audio. Hein. Voilà, donc les Goonies, fortement recommandé pour ceux qui veulent un peu retrouver l'esprit Amblin et un petit peu l'enfant qui est en eux, quoi. Et c'est pareil pour Le Secret de la Pyramide, hein. Tu l'as vu aussi, celui-là.
Alors, plus confidentiel, quand même. Ouais. C'est du Sherlock Holmes, de mémoire, Junior.
Ouais, c'est ça.
Ça reste quand même assez confidentiel, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En même temps, quand t'appelles ton film Le Secret de la Pyramide, tu mets pas en avant Sherlock Holmes, et soit t'as pas eu les droits, ou soit que t'as envie que ton film y bide.
C'est vrai que, comme tu le dis si bien, Le Secret de la Pyramide, sorti en 85, qui est réalisé par Barry Levinson, qui sera plus tard le réalisateur de Men in Black d'ailleurs, de la trilogie. Je crois qu'il y a un quatrième, mais c'est pas lui. Moi, quand j'ai découvert ce film, j'avais vu que quelques affiches, il vantait pas tellement le fait que ce soit une adaptation non officielle d'Arthur Conan Doyle, quoi.
Ouais, le Holmes, il était vraiment pas mis en avant.
Ouais, et le Watson non plus, hein, pas plus
ah
que
non,
ça.
Carrément.
En fait, c'est une espèce d'origine de Holmes et de Watson, hein,
avec un aspect un peu plus
ésotérique peut-être.
Ah, j'ai du mal entre ésotérique et horreur, non, parce que c'est toujours quand il est sous psychotrope.
Il y a une espèce de secte dans l'histoire.
Ouais. J'ai l'impression que c'est des psychotropes et ils vivent leur cauchemar, en fait.
C'est ça, ouais.
Un peu comme l'épouvantail dans Batman, quoi.
Ouais,
ils vivent
c'est
leur
ça,
cauchemar.
Ouais. Et il y a une histoire de secte et de sacrifice humain aussi dans le.
Aussi, ouais. Ah, ouais.
Voilà, donc on est un peu dans cet esprit un peu Indiana Jones, hein, quelque part aussi.
Entre Holmes et Jones.
Ouais, ouais.
C'est Indiana Holmes. Ou Sherlock Holmes.
Sherlock Jones.
C'est dur à dire.
Il y a ce côté vraiment aventure, enquête, mystère. Je dirais que on est plus dans le film d'intrigue mystique un peu, ésotérique, tu sais.
Ça surfe un peu sur tous les milieux. Enfin, ça reste quand même plus film d'aventure que d'enquête. Ça devient quand même film d'enquête, pas vraiment horreur, mais voilà, t'es un peu pris par.
Quand
ils sont sous les psychotropes, là, t'as carrément peur pour eux. Ça surfe un peu sur tout en fait.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est un peu moins dans le film catégorie jeunes enfants, quoi.
Pour moi, c'est plus un film pour quand même un œil adulte pour voir ça.
Pour adolescent, quoi.
Ouais, ado.
Plus proche de 16 ans, 17 ans, quoi.
Ouais.
Parce qu'il y a des scènes qui sont un petit peu dures, quoi.
Il y a des scènes
qui se suicident, des gens qui se suicident.
Ouais, ces scènes où, quand ils sont sur psychotroc, l'autre il se fait attaquer par des gâteaux, il va mourir. Ouais, c'est quand même assez perturbant à regarder ça.
Il y a même cette scène qu'on dit que c'est la première scène en image, le premier personnage en image synthèse. C'est la scène où justement il y a un chevalier qui sort d'un vitrail. Je sais pas si tu te souviens de cette scène.
Celle-là, je m'en souviens plus trop.
Donc, lui, il hallucine et puis il voit un chevalier qui sort d'un vitrail et qui le tue, quoi. Et cette scène, elle est réalisée en CGI, quoi. Alors, à l'époque, on n'était pas trop développé. On n'était pas encore à l'époque Terminator 2 avec le T-1000 et tout ça. Donc, une première avancée aussi de ce côté-là. Mais moi, je le recommande parce que on est dans. Pour ceux qui aiment bien le Sherlock Holmes, ils apprécieront le côté mystérieux de l'enquête, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté
X-Files.
Ouais, je dirais pas X-Files. Non, je te dis vraiment entre plusieurs genres. Du coup, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça titille la curiosité. Je pense qu'il faut le regarder.
Faut le voir, faut le recommander, comme les Goonies. Bon, c'est pas le même niveau de d'après appréhension, je vais dire.
Non, c'est pas le même. C'est moins enfantin que les Goonies.
Ouais. Mais ça se laisse suivre. C'est un très bon film. Et c'est assez... Même si ça n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque, je pense que ça mérite son coup d'œil. Quoi. Voilà. Bon, je vais te laisser parler du prochain, vu que je pense que tu l'aimes bien. C'est Qui veut la peau de Roger Rabbit.
Qui veut la peau de Roger Rabbit.
De Robert Zemeckis.
Voilà, entre un film d'action, un film d'enquête et Mary Poppins. C'est-à-dire que une ville où les Toons existent, c'est-à-dire les Toons, les dessins animés sont réels, et puis là-dedans il y a des meurtres, et puis le mec il enquête quoi, et dedans il y a un lapin un peu débile qui le détective doit supporter entre guillemets parce qu'il il est pris pour cible, et puis on dit que c'est un assassin, etc.
En fait on est dans les codes du film noir complètement,
dans les codes du film noir, et ça joue aussi avec les codes des Toons en fait, hein, qui se prennent pas au sérieux et qui ont du mal à...
Il y a notamment cette poursuite avec la voiture en Toons.
Avec la voiture Toons, ou alors Roger Rabbit qui doit rester caché, mais il pète un plomb parce que c'est un Toons, il peut pas résister à certains appels ou des trucs comme ça. Ouais, ou même Daffy qui se bat contre Donald aussi.
Ouais, il y a plein de références aussi de ce côté-là.
Ouais, il y a plein de références, ouais.
Résumons l'histoire rapidement, c'est que, comme tu l'as dit, il y a une histoire d'enquête. Au départ, ça part sur une enquête, c'est pour ça que je parle de film noir, parce que t'as tous les codes, t'as notamment le détective, le mari qui pense être trompé par sa femme, qui est une femme fatale, quoi, c'est Jessica Rabbit. Et il y a un grand méchant qui est joué par notre cher Christopher Lloyd.
Nom de Zeus!
Mais là, il est vraiment cynique, quoi, dans ce film.
Ouais, hein, psychopathe, hein.
Ouais, c'est le juge de mort, si je me souviens bien du truc. Ouais. Puis ouais, c'est vrai que sur le plan technique, c'est quand même assez révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on mélange le dessin animé et les prises de vue réelles, quoi.
Voilà, on mélange exactement. Je sais pas, ça fait penser un peu à Mary Poppins, mais enfin, rien à voir, hein, largement mieux, hein.
Il y avait aussi, Peter et Elliot le dragon.
Peter et Elliot, mais il y avait moins d'interactions entre les personnages. Il y a beaucoup d'interactions entre les Toons et les Patoons, entre les Toons et les humains. Et puis, d'ailleurs, c'est quand même mieux réalisé, moins bien qu'un The Mask, mais mieux quand même qu'un Mary Poppins. Ça se voit.
The Mask, c'est du numérique. Hein,
The Mask, c'est numérique, mais ça reste un aspect Toon. Voilà. Là, par contre, c'est vraiment des dessins avec du réel, quoi.
C'est-à-dire que il y a cette scène où il essaye de l'étrangler, et puis on voit qu'il est dans l'acteur qui est joué par Bob Hoskins. Il essaye de maîtriser Roger parce qu'il est en furie ou je sais pas quoi.
Ouais, quand il a bu de l'alcool, il se contrôle plus quand il boit de l'alcool et qu'il saute partout et tout comme ça.
Donc c'est déjà un premier pas vers ce que j'appelle la motion capture, c'est-à-dire que tu dois faire en sorte qu'il y a un personnage qui existe, quoi, tu vois.
Ils peuvent étrangler vraiment un stagiaire et puis après mettre sa tête dessus.
C'est comme le disait fortement Evan McGregor quand il a tourné l'épisode 2, parce qu'il y a le film était quand même à 70% numérique. Il dit je vais me battre contre des personnages virtuels, tu sais, donc il fallait s'imaginer qu'il y avait des mouvements, tout ça. C'était un peu plus compliqué que de jouer le simple acteur, quoi.
Ouais, puis t'as pas de point de repère dans ces cas-là.
Ouais,
c'est même pour ça qu'ils ont dû faire flotter Yoda sur une plateforme, parce qu'ils avaient oublié qu'il était tout petit. Donc du coup, ils l'ont mis sur une plateforme en épisode 2 ou 3, je sais plus. Ouais.
Puis il y a aussi ce personnage de Baby Herman, tu sais,
Ah ouais.
Ça, c'est la caricature du bébé qui fume et qui jarte comme un, jartiche, quoi.
Qui
jure comme un
jartier. Un truc dans le genre.
Donc, il y a une grosse voix, je crois, le même.
Ah ouais,
le
il y a une voix,
Donc, il est tout beau, mais en fait, c'est vraiment la caricature, quoi. Mais ça fonctionne bien, hein. L'enquête est pas si simple que ça. Même si, quand tu vois arriver Christophe là, tu te dis, ah ouais, lui est coupable, c'est obligé.
Ah, le twist à la fin, je le voyais pas comme
ça. On l'a arrivé de loin, quoi.
On peut vous spoiler, mais
on peut spoiler.
Franchement, le twist comme quoi le juge de mort c'est un Toons, c'est lui qui a pété les plombs.
Ah oui, c'est vrai aussi, il y a cette histoire.
Ça, non, moi je l'ai pas vu arriver.
Ouais. D'ailleurs, il y a une espèce de. Il crée une espèce de liquide pour les.
Du dissolvant, hein.
Ouais, du dissolvant carrément.
Du benzène.
Ouais. Il met les clous, hop, ils fondent. C'est tout vert, je crois, un truc comme ça.
Ouais, il met les Toons dedans et ça les dissout.
Enfin bref, Zemeckis, encore une fois, il est excellent, quoi. À la réalisation, tout ça. Il fait un sacré boulot, hein.
Film qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti, parce qu'apparemment c'était une prouesse, donc. Ouais. Voilà.
C'est encore une nouvelle prouesse technique, hein.
Ouais.
Non, je pense qu'on peut le recommander aussi, celui-là.
On peut le recommander.
Aisément, quoi. Bon, après, on va peut-être terminer et conclure cette histoire, là. Attention, c'est pas Michel Blanc. Sur une grosse licence, hein, qui a commencé en 1993, hein. C'est Jurassic Park. Alors, tu veux peut-être en parler,
Je sais pas si vous connaissez le plot de Jurassic Park. Si vous connaissez pas, vous avez rien à foutre sur cette chaîne.
On rappelle un petit peu que le trio de tête, c'est Sam Neill. Donc, Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum, surtout. la rockstar.
Independence Days, la bouche, par exemple. Et Laura Dern. Donc voilà, Goldblum qu'on verra dans le 2. Et Sam Neill qui sera présent dans le 3 d'ailleurs.
Donc Jurassic Park où Spielberg est beaucoup revenu sur ses codes. Par exemple, les raptors que tu vois pas vraiment au début alors que t'en as très peur, tu vois. Parce qu'ils sont dans la cage et ils font tomber le mec et ils le mangent, quoi. Tu vois, t'en as très peur comme dans les Dents de la Mer. Hein. C'est-à-dire, tu vois pas le monstre.
Ouais.
Là, tu vois pas vraiment le dinosaure. Puis après, l'aspect merveilleux qui tourne au dramatique une fois que l'humain a fait sa connerie, quoi, entre guillemets.
Ouais, une fois que...
L'informaticien, il a enlevé toutes les protections pour pouvoir se barrer avec les échantillons, quoi.
Ouais, il y a toujours un accident qui provoque une catastrophe, en fait.
Voilà, exactement.
C'est de cause à conséquence. Non, c'est vrai que moi, je retiens surtout des scènes... alors, moi, j'utilise à la base, c'est un roman de Michael Crichton, qui est assez connu, d'ailleurs, comme romancier, que ce soit dans le thriller ou dans le fantastique, le parc jurassique. Lui, il a fait un peu une espèce de thriller un peu horrifique, tu sais, dans son roman. Et là, Spielberg, il est encore une fois atténué, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des scènes horrifiques dans ce film-là. On est quand même, le spectateur, il se rend compte quand même de l'évolution esthétique des effets spéciaux dans ce film. C'est quand même incroyable de voir des brachiosaures, mais il y a des
dinosaures,
des triceratops,
ceux qui... Il y avait des brachiosaures au début.
Des stégosaures. Ouais, enfin, celui qui a un long cou.
Enfin, celui qui a un long cou.
Qui attrape l'herbe, là.
Ouais, qui m'ont... Ouais, ouais, puis il y a un moment qui leur éternue dessus aussi, là.
Ouais, ouais.
Après, il y avait forcément le T-Rex, hein.
Le T-Rex. Le T-Rex, Spielberg, il le présente vraiment de façon...
C'est lui la star.
C'est en pleine nuit, il pleut, t'as la clôture qui est fissurée, tu te demandes vraiment ce qui va arriver, quoi.
Ah, puis c'est la star du film, pour
moi. Ah ouais, complètement. Mais tu vois le niveau d'animation, quoi. C'est incroyable, quoi. Il y a un degré de réalisme dans ce film.
Ah bah, il y a un degré de réalisme, surtout quand les enfants ils paniquent, parce qu'ils ont failli crever vraiment sur le plateau.
Ah bon?
Ils se sont fait, tu sais, quand ils sont sous la vitre de la voiture.
Ouais.
En fait, les vérins, ils se sont emballés, ils ont vraiment failli crever.
Ah, écraser le véhicule.
Écraser les gosses.
Ah bon?
Donc, du coup, ils se sont dit, bon, celle-là, on la garde. Ça fait vachement vrai, on garde.
Le réalisme, toujours. Les accidents de tournage qui sont gardés pour,
pour le film. C'est comme Die Hard 1, quand le mec, il tombe.
Ouais. Tu vois, Alan Rickman.
En fait,
ouais.
Il a dit, on compte jusqu'à 3, ils ont fait 1. Ils l'ont lâché.
1, 2, hop. Tu vois sa tête,
voilà,
c'est réaliste, quoi.
C'est comme ça où tu te dis, ah, ouais, bah, ça on garde, du coup. Et là, c'est pareil, ils ont failli mourir.
C'était pareil pour l'exorciste, de toute façon, pour celle qui fait la jeune fille possédée, là, tu sais, Linda Blair, le réalisateur, il a tout fait pour qu'il crée une espèce d'ambiance anxiogène, tu sais, pour que tout le monde se sente vraiment mal à l'aise.
Vraiment anxiogène, et pour que ça se ressente sur la pellicule.
Ouais. C'est ça, en fait. Elle était soumise à une forte pression, cette fille, tellement que, après, bon, il y a une super performance derrière. Mais c'est au terme, quand même, de gros efforts, quoi, tu vois. C'est le réalisateur qui impose sa vie, un peu sa façon de faire aux acteurs, tu vois. Est-ce que c'est correct, est-ce que d'un point de vue déontologique c'est correct, c'est discutable, tu vois. Il y a des trucs qui sont discutables. Bon, bah, l'aspect horrible, ouais, c'est T-Rex qui mange tout le monde, hein, quasiment.
Ouais, les raptors surtout.
Ouais, les raptors aussi, ils sont voraces.
Ah, les raptors, ouais, c'est moi, ils m'ont plus fait flipper, les raptors, avec leur avec leur esprit, tu vois, qu'ils ont vraiment, c'est pas de la force brute, là, c'est
l'esprit,
du calcul,
l'esprit de groupe,
ouais, l'esprit de groupe, l'esprit de meute, et puis qui calcule leur coup, quoi. Et tandis que le T-Rex, lui, c'est la force brute, quoi.
Ouais, lui, il s'en tape. Mais...
Ouais, c'est bon, sachant que ça a été prouvé que même à pied, tu le sèmes, un T-Rex, hein, mais bon.
Ouais, parce que là, ils ont du mal à le semer avec la bagnole.
Ouais, ils disent, flashé. Il était à 30 km heure ou 50
km. Il était flashé à 100 km heure.
Et puis que là, il était en voiture, ils n'arrivent pas à le semer, alors que ça a été prouvé que 6-7 km heure maximum, et il pouvait pas courir longtemps.
Il était beaucoup trop lourd pour aller vite.
Beaucoup trop lourd pour aller vite.
Puis surtout qu'il est monté sur deux petites pattes, donc il peut pas, en vélocité, je pense pas que. Par contre, le Raptor, il doit être plus rapide.
Raptor, il était rapide, apparemment. Bah, apparemment, il était plus petit que ça aussi, mais enfin, si on n'a pas fini avec Jurassic Park, parce que c'est l'image qu'on se faisait des dinosaures à l'époque. Hein.
L'espèce d'incohérence vis-à-vis des trucs, des hypothèses scientifiques, peut-être.
Bah oui, mais c'est normal. Je veux dire, en 93, tu t'imagines un dinosaure, tu mettais pas de plume dessus. Maintenant, tu mets un plume sur les dinosaures.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est des descendants des volailles, en fait. Enfin, les volailles, c'est
maintenant, les dinosaures, elles pondent des œufs dans mon jardin, les dinosaures, maintenant.
C'est vrai que moi, j'ai toujours cru que, bon, ça se peut, hein, que les crocodiles, les sauriens en général, et tu sais, tout ce qui est saurien et reptile, c'était tous les descendants des dinosaures.
Bah, c'est ce qu'on croyait jusqu'à encore à l'époque, et en fait, non,
c'est la volaille, c'est tout ce qui est poulet.
Tout ce qui est poulet, volaille.
Quand même incroyable, quoi.
Marée chaussée, tout comme ça.
Donc des animaux qui sont inoffensifs finalement, tu vois.
Enfin, s'ils font 10 mètres de haut, par exemple, j'aimerais pas avoir une autruche en face de moi qui m'en veut un petit peu.
Non, c'est vrai que l'autruche, bon, ça pas très agréable, mais c'est pour dire que bon, ils ont quand même accentué le côté horrifique, hein, ça c'est clair.
Ah, ouais.
Puis ça marche. Hein. Mais est-ce que toi, de ton point de vue, tu montrerais ça à tes enfants par exemple?
Non, encore un peu tôt. Ouais, ma dernière 12 ans, si je lui montre ça sans problème. Hmm. Petite 8 ans, ouais, j'hésiterais un peu plus.
À cause de la scène du tyrannosaure qui bouffe le mec sur le chiotte.
Ouais, non, ouais. Ça, T-Rex, et puis tout le avec les raptors aussi, tout l'aspect dangereux du dinosaure, tu vois. Ouais, j'aurais un peu plus d'hésitation à lui montrer.
C'est vrai que ça fonctionne vachement, quoi. Je veux dire, c'est un film que tu peux regarder tous les ans, voire tous les mois, enfin tous les mois.
Tous les mois, non. Mais tous les ans, ouais.
Ouais, tous les ans, sans problème. Même si tu connais par cœur les scènes, hein, parce qu'au bout d'un moment, tu les connais, c'est obligé. Mais t'as toujours ce plaisir de redécouvrir ces images, quoi. Elles sont tellement fabuleuses, quoi, pour moi.
Encore un film qui avait fait très très grande sensation à sa sortie.
Ouais, c'est ça.
Encore une fois, salué parce qu'il mélangeait les animatroniques et les images de synthèse.
C'est ça.
Et franchement, ça marche.
Mmh. En plus, t'as une super musique de John Williams qui.
Ah, la musique aussi.
Ouais. Ouais. C'est, je peux pas dire, mais.
Bon, heureusement qu'ils ont fait qu'un film Jurassic Park, hein, parce que. Ça aurait été dommage sinon.
Non, non, ils ont pas fait qu'un film Jurassic Park, malheureusement.
Non, non, il y en a qu'un.
Donc, il y a eu 4 suites, et je dois dire que, bah, déjà, dès la deuxième, ça part en cacahuète, quoi.
Bon, dès la deuxième, tu sens qu'on est en train de rincer une licence.
Ah, on est complètement...
Il y a plus rien de neuf, plus de nouveauté.
Ouais.
Et après, je te dis, ils ont dit, après, pour les autres films, ils se sont vraiment dit, bon, bah, le T-Rex, c'est le héros principal. C'est toujours lui qui va sauver la situation.
Et là, c'est le cas dans le Jurassic World.
Ouais, dans les Jurassic World, c'est le T-Rex qui
sauve les humains.
Pour aller battre l'Indominus, il libère le T-Rex.
Alors que l'Indominus, en général, en principe, il est plus virulent que le T-Rex.
Puis plus intelligent, parce que c'est censé être croisé avec des humains aussi, il me semble.
C'est une croisée. Ouais, c'est une espèce d'expérience génétique qui est un peu foirée, quoi.
Ouais, bah, comme toutes les expériences génétiques dans les films comme ça. Hein.
Alors que c'est vrai que dans Le Monde Perdu, qui est le deuxième, et puis Jurassic Park numéro 3, qui a pas de suite, de sous-titres, bah, on est dans ce côté, un peu à la King Kong, quoi, finalement.
Ouais, après, ça devient l'île des monstres, hein, exactement.
Ouais, et puis même, t'as une partie du T-Rex qui est en pleine ville, quoi. Il passe dans une piscine, il mange des gens, enfin, c'est le bordel, quoi. Bon. Parce qu'il ramène le T-Rex, c'est complètement King Kong, hein, il ramène sur un truc.
Il ramène le T-Rex.
Ils veulent l'exposer, ou voilà, je sais plus ce qu'ils veulent faire. Et puis ça y est, l'autre, il gambade dans les rues, quoi.
Voilà, c'est classique.
Ouais, donc c'est pour ça que c'est pas très original. Et puis c'est vrai que sorti de l'histoire de la chasse et tout ça, on est un peu limité au niveau scénaristique. Hein.
Bah après, de toute façon, je veux dire, voilà, le premier c'était le merveilleux qui dégénère. Bah après, c'est tout. Une fois que t'as vu ça, t'as plus rien d'autre à faire.
Bah, y a une vraie réflexion dans le premier, ce qu'il y a plus dans les films. Dans les films, quoi.
Et t'avais des réflexions philosophiques dans les premiers,
enfin
dans le premier. C'est-à-dire que s'ils sont disparus, ben, c'est peut-être qu'il y a une raison. Ah, peut-être
aussi.
Pas trop joué au savant fou. Et puis voilà, quoi.
Adieu, quoi, quelque part.
Adieu, oui, complètement. Ouais. J'ai dépensé sans compter.
Ouais, ça, c'est Richard Attenborough. Puis après, il y a la théorie du chaos avec Jeff Goldblum.
Avec Jeff Goldblum, ouais.
Après, ils sont partis avec Jurassic World et le numéro 5, là. Pour moi, dans des scénarios de série B, série Z, on va vendre le dinosaure, on va en fabriquer, on va faire une arme. Bientôt, ils vont s'équiper. Tu sais, il y avait un dessin animé avec des dinosaures qui... Ils avaient des armes.
Ouais, il y avait même un dessin animé qui s'appelait Cadillac et Dinosaure. Et après, ouais, avec des armes, ouais, ça se peut. Hein. Enfin, je me rappelle plus, mais...
Mais si, c'est une vieille série, mais je me souviens plus du nom. Mais elle a pas duré longtemps non plus.
On se demande pourquoi.
Ils vont faire un sixième, là. Mais est-ce qu'on va encore partir dans le truc de série B, Z, tu sais, avec des... Ils vont monter des mitraillettes et tout, tu sais. Ça va faire un peu comme c'est dans les batailles de Star Wars où ils mettent des armes sur des bestioles, tu sais. Pour en faire des chars, quoi, des espèces de...
Bah, je parle pas des AT-AT, hein. Des armes biomécaniques.
Ouais. Comme par exemple les gun guns dans l'épisode 1.
Ouais, ou alors, les baleines avec les chitori. Hein,
voilà. Ouais, c'est ça, ouais.
Dans Avengers, hein, pour la référence.
Ouais, les Léviathans, ouais.
Ouais.
Il y a l'opportunisme de faire du free, de la licence, mais c'est mauvais, quoi.
Puis il n'y a plus de magie, en plus, c'est
non,
ça.
Non, il n'y a plus rien. Tout
la suite 93, franchement, t'en prenais plein les yeux au début, quoi. T'étais waouh.
Totalement.
Tu dis, ouais, t'imagines, s'il y a vraiment des gros dinosaures, ça serait super à voir. Et après, quand tu vois mettre les carnivores en route, ouais, c'est peut-être pas une meilleure idée.
Non, c'est clair.
Puis aussi que la vie trouve son chemin, c'est-à-dire qu'ils mettent que des femelles, mais ils arrivent à se reproduire quand même. Tu vois, c'est ça. C'est que tu peux pas contrôler la nature.
Non, c'est vrai.
S'ils sont éteints, c'est qu'il y a une raison, et cherche pas à les contrôler, c'est toi qui vas en partir.
Ah, c'est vrai que c'est incroyable. Puis il y a même cette scène où il y a le triceratops, je crois que c'est le triceratops qui est malade. Là,
ouais, où elle met ses mains dans
le cambouis.
Dans la bouse de triceratops.
Dans le cambouis, quoi, ouais.
Et en fait, tu comprends plus tard que ce qu'elle a comme symptôme, c'est des chaleurs de dinosaures.
D'accord.
Enfin, c'est ce que tu arrives à comprendre.
Mais c'est quand même incroyable. Je veux dire, visuellement, moi, je suis toujours épaté de voir cette scène. Moi, je te disais l'histoire du dinosaure qui attrape l'arbre là en hauteur, là, qui se lève. Il se lève pour attraper le...
Ouais.
Tu vois, il y a vraiment...
Diplodocus, c'est ça ?
Ouais, le Diplodocus. Il y a vraiment cette échelle, on est à l'échelle humaine, et tu vois que c'est ces bestioles qu'ils ont vécu il y a des milliards d'années, on va dire. On était vraiment rien à côté, quoi, tu vois. On était vraiment des marionnettes, quoi, des...
Bah, des insectes, hein.
Des figurines, quoi, tu vois, des figurines de... Hasbro, quoi. Je pense que c'est le côté vraiment fastidieux du truc, tu sais, ça a toujours été fascinant, le fait de voir...
Fastueux, tu veux dire.
Fastueux, ou... Il y a le côté un peu... je sais pas, je t'arrive pas à trouver, mais moi, je dirais épique, quelque part, dans ce film. Il y a de la grandeur à côté,
voilà,
de toi.
Voilà, il y a de la grandeur.
Et finalement, ils sont tous plus grands que toi, et finalement, l'être humain n'est rien, quoi, à côté d'eux, quoi.
Ouais, exactement. C'est-à-dire que, comme tu disais, le rapport d'échelle, c'est que face à des titans comme ça, t'es pas grand-chose.
C'est sûr, mais c'est clair. C'est un peu comme l'espace, quand tu vois le vide de l'espace, tu dis « Ah, oh, mais on est vraiment... »
Ouais, moi, face à du vide comme ça, il y a que le vide de nos dirigeants que j'arrive à comparer.
Le vide des cerveaux, tu veux dire. Donc toi non plus, t'as pas aimé les suites, d'après ce que je veux dire.
Non, les suites, le 2, mais c'est un divertissement, c'est pas un grand film. Alors le 3, le 4, le 5, enfin, tous les trucs comme ça, non.
Non, c'est fini.
Je trouve pas l'intérêt.
Tu les as regardés quand même, le 4 et le 5?
Non, je suis arrêté à Jurassic World, le premier. Parce
avec Chris Pratt, là.
Ouais, après, j'en ai eu marre. Hein.
Ouais, d'autant plus que le personnage, il fonctionne pas du tout non plus là-dedans.
Non, le seul qui marche bien, c'est Omar Sy, donc.
Ouais, donc pour le côté Amblin, je veux dire une petite conclusion vite fait. Hein, je dirais que il y a quand même J.J. Abrams qui a retrouvé un peu qui a voulu rendre hommage à l'esprit Amblin à travers le film Super 8, tu as vu aussi.
Oui, Super 8.
Ouais. Où il était question de quatre jeunes.
Qui se filment avec la caméra du père qu'ils ont emprunté.
Ouais.
Puis ça dégénère, quoi. Ouais. Ils filment un train et ça dégénère.
Ouais. Donc le train s'en va, puis en plus il a refermé une présence extraterrestre, quoi.
Ouais.
Il y a cette espèce d'osmose entre le jeune garçon et l'extraterrestre à un moment, il me semble, avant qu'il reparte.
Ouais, parce qu'ils arrivent à comprendre l'extraterrestre qu'en fait tout ce qu'il voulait c'était se nourrir, et c'est ça. On lui a pas laissé le choix que de bouffer des humains, donc ils sont un peu cons à l'état, hein. Ils donnent des humains à manger.
Et c'est le OT, mais un peu plus horrifique pour moi.
Ouais.
Sympa, quand même, c'est sympathique à regarder, je trouve.
Ouais, Super 8, ça c'est pas un grand film, mais ça se laisse regarder. Voilà, on a fini sur on va dire un peu les épopées Amblin. Bon, la plupart ou même tous sont pas trop mal vieillis. Vous pouvez les regarder et puis vous faire votre propre avis là-dessus, sachant que ça se trouve assez facilement, même en occasion, même en VOD. Ouais. Voilà, c'est pas des films qui vont vous revenir très cher à regarder.
Ah non, c'est sûr. Y a aucune difficulté à les trouver. Hein,
aucune difficulté à les trouver. Dans le marché de l'occasion, de toute façon, ils arrivent à passer à la télé, peut-être même certains moments.
Ils sont disponibles en Blu-ray, même.
Ils sont disponibles en Blu-ray.
Certains même en version 4K. Je sais que la trilogie Retour vers le futur est sortie en 4K il y a pas très longtemps.
Voilà, pour ceux qui ont un compte Netflix, la trilogie Retour vers le futur, les Goonies ou Jurassic Park, vous pouvez les voir sans aucun problème là-dessus. Et je vous conseille parce que franchement, c'est des œuvres cinématographiques pour la plupart, voire même pour toutes, qui ont vraiment pas trop mal vieilli, avec une bonne patte Amblin comme on aime, parce que il y a toujours une patte Amblin, et puis ça se laisse regarder venir très facilement, et vous pouvez y aller les yeux fermés.
C'était revenir sur l'esprit Amblin, c'est que c'était un divertissement qui était intelligent et qui prenait pas les enfants pour des imbéciles, ce qu'on a plus vraiment maintenant pour les films d'adolescents, tu vois.
Voilà, il n'y avait pas de truc pré-mâché, c'est-à-dire qu'on pouvait suivre le film et avoir des rebondissements pour lesquels on s'y attendait pas, notamment dans Roger Rabbit par exemple, ou même dans les autres, Retour vers le futur, etc. On a des rebondissements, ça reste familial, et puis l'horreur est quand même atténuée, comme tu disais, par la patte des réalisateurs qui voulaient pas faire de l'horreur pure, et du coup ça peut se laisser regarder, mais quand même avec des ados avertis quand même.